Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec bien sûr l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne. Bonjour Marine.
Bonjour Anthony, bonjour à tous.
Alors avant de poursuivre notre programme, les thématiques, nos invités, tout de suite l'éphéméride de votre dimanche avec Alessandra Martinez.
Détendez-vous devant votre programme avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises au design norvégien et au confort unique.
Chers amis, bonjour. Ce dimanche des Rameaux marque le début de la Semaine Sainte qui va nous conduire jusqu'à la grande fête de Pâques dimanche prochain. C'est donc un jour majeur du calendrier. Sur les parvis des églises, tout au début de la messe, les fidèles vont brandir des rameaux de buis. Ce sont les mêmes rameaux que l'on glisse ensuite derrière les crucifix dans les maisons et que l'on brûlera l'année prochaine pour le mercredi des cendres. Ces rameaux symbolisent les palmes qu'ont agitées les habitants de Jérusalem sur le passage de Jésus lorsqu'ils l'ont accueilli. Vous connaissez sans doute cette scène. Le Christ entre dans la ville sur un petit âne. La foule est en liesse. On dépose même des manteaux sur le sol pour l'adoucir lors de son passage. Mais Jésus sait qu'il va bientôt souffrir la passion et que cette même foule qui l'acclame va réclamer sa mort. Et voici pour finir le cri de joie que poussait la foule au passage de Jésus. C'est saint Marc qui nous le rapporte dans l'évangile lu aujourd'hui lors de la procession des rameaux. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon dimanche des rameaux et une belle entrée dans la Semaine Sainte. À demain, chers amis.
Détendez-vous, confortablement installés. C'était votre programme avec les fauteuils et canapés Stressless.
Ils sont avec moi sur ce plateau pour commenter l'actualité. J'ai le plaisir de vous présenter Arthur de Vatrigan. Bonjour.
Bonjour Anthony.
Directeur de la rédaction de L'Incorrect. Et face à vous ce matin, comme à l'accoutumée, ce cher Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume.
Bonjour cher Anthony Favalli. Bonjour à tous.
Éditorialiste. À tous. On va commenter l'actualité tous ensemble. Mais tout d'abord, la météo, c'est Karine Durand.
La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
Retrouvez la météo avec Body Minute, un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
Karine, vous ne nous avez pas gâtés ce week-end. Il faut s'attendre à des températures hivernales aujourd'hui.
Oui, et nous sommes justement le dimanche des rameaux. Il y a d'ailleurs un dicton météo très connu qui est associé à cette journée des rameaux. On a coutume de dire que le vent des rameaux ne change pas de sitôt. Ça veut dire eh bien, que ce vent des rameaux déterminerait les conditions météo du reste de l'année et surtout de l'été. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans un flux d'ouest à nord-ouest. Ça veut dire un temps assez frais et humide. Donc évidemment, ce dicton n'a aucune valeur scientifique, mais c'est assez intéressant à signaler quand même. Alors en France, eh bien, on retrouve encore cette petite dégradation sur l'est du pays, avec quelques pluies sur la région Grand Est, de la neige au-delà de 800 mètres sur les Vosges, le Jura, 1000 mètres sur les Alpes et le Massif central. Ça s'améliore par contre du côté de l'ouest, avec davantage d'éclaircies, mais toujours avec ce flux d'ouest donc, qui donne ce ressenti vraiment frais. Et le vent reste fort, encore une fois, en Méditerranée, spécialement dans la région de Bastia, plus de 100 km à l'heure. Au cours des prochaines heures, on va retrouver à nouveau ce temps toujours agité sur la région Grand Est avec quelques averses, possiblement de la grêle et du grésil. De ce côté-là, au cœur des averses de l'après-midi, toujours un temps venté mais bien dégagé en Méditerranée et un temps plutôt calme et variable sur l'ouest. Les températures sont donc fraîches ce matin. Un vrai ressenti d'hiver entre 2 et 5 degrés sur les côtes de la mer du Nord, à peine 5 degrés sur la capitale, 11 degrés du côté de Perpignan. Et au cours de l'après-midi, eh bien, les températures sont à peu près similaire à celle de la veille avec une dizaine de degrés sur la moitié nord au cours de l'après-midi et une légère baisse également pour le sud-est.
C'était la météo avec Body Minute, un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
7h sur CNews, c'est parti pour 2h d'infos à la une. La Russie se réveille en deuil ce dimanche. C'est le bilan le plus lourd jamais enregistré pour un acte terroriste commis sur le sol européen. Au moins 133 morts victimes de l'islamisme radical dans une salle de concert. Selon le Kremlin, 4 assaillants ont été interpellés en direction de l'Ukraine. L'Ukraine dont Vladimir Poutine semble clairement pointer du doigt la complicité. Hypothèse crédible ou prétexte à un déchaînement de violence. Nous poserons la question au géopolitologue Gérard Vespierre dans quelques instants. Et puis à mes invités par la même occasion. L'angoisse pour de nombreux parents d'élèves qui vont reprendre les cours ce lundi dans les Hauts-de-France. De nouvelles menaces d'attentats ont été diffusées ce week-end sur les espaces numériques de travail de centaines d'adolescents. Des menaces prises très au sérieux. La sécurité sera renforcée demain matin aux abords de ces établissements. On fera le point dans ce journal. Pour faire face aux agressions, de plus en plus de femmes se tournent vers les stages d'autodéfense, des gestes simples qui s'acquièrent en quelques jours. On le rappelle, une femme sur deux a déjà subi du harcèlement ou une agression sexuelle. Nous avons suivi pour vous l'un de ces stages dans le Lot-et-Garonne. On commence donc avec la Russie qui observe une journée de deuil national ce dimanche après l'attaque d'une salle de concert à Moscou. C'était vendredi soir. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Le bilan est terrible. Au moins 133 morts tués, 140 blessés. Un premier coup de filet a permis d'interpeller 11 personnes, dont 4 assaillants selon le Kremlin.
Ces 4 individus seraient des citoyens étrangers selon le Kremlin. Une enquête pour acte terroriste a été ouverte. On fait le point sur ces dernières informations avec Sarah Varni.
Au lendemain de l'assaut, le Kremlin a annoncé avoir interpellé 11 personnes, dont 4 assaillants suspectés d'avoir directement participé à l'attaque armée dans la banlieue de Moscou. Selon le ministère de l'Intérieur russe, ces 4 auteurs présumés seraient tous des citoyens étrangers, sans préciser leur nationalité, et leur identité reste encore inconnue. Le comité d'enquête, encore au stade des constatations, a indiqué avoir saisi ces armes automatiques qui auraient été utilisées par les auteurs de l'attaque. Les assaillants auraient également fait usage d'un liquide inflammable pour mettre le feu à la salle de concert où se trouvaient des spectateurs. Selon plusieurs agences de presse russes, c'est ce véhicule blanc que les assaillants auraient utilisé pour fuir le lieu de l'attaque. Sur une chaîne Telegram proche du Kremlin, ces vidéos d'arrestation ont été diffusées. Le comité d'enquête précise que ces personnes ont été arrêtées dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine et du Bélarus. Selon le média Medusa, ces arrestations se seraient produites à Katsoun, dans la région de Briansk. Dans une allocution, Vladimir Poutine affirme que les suspects se dirigeaient vers l'Ukraine. Daesh, de son côté, publie une photo des assaillants à visage fouetté et revendique l'attentat.
Et Vladimir Poutine a promis hier de punir les responsables de cette attaque sanglante. Il n'a pas évoqué la revendication de l'État islamique, étonnamment. En revanche, il assure que les assaillants ont été arrêtés en chemin vers l'Ukraine.
Le sous-entendu est clair pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Russie cherche à rejeter la faute sur son pays. On l'écoute.
Encore une chose, ce qui s'est passé hier à Moscou. Il est évident que Poutine et les autres salauds essaient juste de trouver quelqu'un d'autre à blâmer. Leurs méthodes sont toujours les mêmes. Nous avons déjà vu tout cela. Des bâtiments détruits, des fusillades et des explosions. Et ils cherchent toujours quelqu'un à blâmer.
Et nous sommes en direct avec Gérard Vespierre. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, Gérard Vespierre. Vous êtes géopolitologue, fondateur du Monde Décrypté. Je voudrais qu'on revienne avec vous sur cette prise de parole de Vladimir Poutine qui ne mentionne pas, je le disais tout à l'heure, la revendication de l'État islamique, qui n'accuse pas directement l'Ukraine de complicité, mais qui fait une insinuation très claire en expliquant que les assaillants interpellés prenaient la direction de l'Ukraine. Alors déjà, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que l'hypothèse d'une complicité ukrainienne est quelque chose de crédible, selon vous ?
Écoutez, je crois que d'abord, Vladimir Poutine n'a pas voulu ouvrir ce que je qualifierais de deuxième front et de deuxième front intérieur. Pour lui, il s'agit de rester concentré sur la guerre actuelle contre l'Ukraine. Et le deuxième front, eh bien, effectivement, c'est de mentionner l'État islamique. L'État islamique qui veut dire donc parler du monde musulman. Or, il y a 15% de la population russe, n'est-ce pas, qui est de confession musulmane, c'est-à-dire 20 millions de citoyens. Parler de l'univers musulman, c'est regarder vers le Caucase, c'est regarder vers la Tchétchénie, c'est regarder vers le Daghestan, qui sont déjà dans des qui sont des territoires où il y a des mouvements pour retrouver une indépendance qui a été perdue il y a 170 ans. C'était des régions indépendantes. Et parler de l'État islamique, eh bien, c'est évoquer aussi le contentieux historique que l'État islamique place et pose devant la Russie en disant « vous avez du sang musulman sur les mains, depuis les 150 000 morts que vous avez créés en Afghanistan, depuis que vous êtes intervenu dans la guerre de Tchétchénie et depuis que vous êtes intervenu en tuant des musulmans en Syrie ».
Alors on entend qu'il ne veut pas ouvrir d'autres fronts que celui de l'Ukraine, qu'il reste concentré sur celui-ci. Mais qu'est-ce que ça nous dit, du coup, des intentions de Vladimir Poutine? Est-ce que cela peut être une opportunité pour lui d'accroître le déchaînement de violence sur l'Ukraine?
Ça, disons que je ne pense pas qu'il y ait de relation entre cette incursion islamique dans la situation russe et puis un durcissement ou une extension du conflit en Ukraine. Si la Russie a les moyens et la possibilité de mener une offensive, elle le mènera, elle le fera, quelle que soit la situation dans le Caucase et à l'extérieur vis-à-vis du monde musulman. Donc ce sont, à mon sens, humblement, deux éléments vraiment séparés, la décision d'augmenter les frappes en Ukraine ne sont pas du tout liées à une situation intérieure.
Quand l'ambassade américaine en Russie avait alerté le Kremlin d'un risque d'attentat, Vladimir Poutine avait dénoncé une provocation destinée quelque part à intimider, à déstabiliser la société russe. Est-ce que cette déclaration aujourd'hui peut lui revenir comme une sorte de boomerang dans l'opinion publique russe?
Absolument. Et je crois que là, le deuxième volet de cette situation-là, c'est de constater que les États-Unis, avec 2 mois d'avance, ont annoncé en décembre-novembre 2021 que la Russie allait attaquer en Ukraine. Les Américains ont également prévenu cette année, au mois de janvier, le pouvoir, tenez-vous bien, iranien, car l'État islamique a frappé au mois de janvier en Iran avec pratiquement 100 morts, n'est-ce pas? Et troisièmement, vous voyez cet attentat qui a été mené à Moscou et où les Américains étaient déjà en état de connaître le semblant du projet, bien sûr sans en connaître la date précise, mais en tout cas le profil et l'existence d'une menace. Donc il y a cette effectivement situation où Vladimir Poutine est sur la défensive après avoir nié la réalité et le fait que, eh bien, on se rend compte que les États-Unis ont une capacité d'écoute, soit humaine, soit électronique, et de décryptage que l'on n'avait pas connu depuis longtemps.
Merci Gérard Respierre, géopolitologue et je le rappelle fondateur du Monde Décrypté. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans cette matinale. Messieurs, peut-être un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre et sur les propos de Vladimir Poutine qui ont interpellé, qui n'a pas une seule fois évoqué l'État islamique hier.
On a un état de guerre, même s'il n'était pas officiellement l'état de guerre décrété en Russie depuis de 2 ans maintenant. Et donc les deux protagonistes de cette guerre, l'agresseur et l'agressé, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, immédiatement se sont jetés sur ce prétexte. Ça a été Medvedev avant, c'était repris par Vladimir Poutine. Et tout de suite, les Ukrainiens ont surenchéri en expliquant que c'était probablement les Russes qui s'étaient
attaqués eux-mêmes. Oui, le FSB lui-même qui avait commis cette attaque.
C'est
instrumentalisé des deux côtés.
Nous sommes en guerre. Donc en guerre, il y a de la propagande de part et d'autre. L'enjeu est tellement lourd. Et cet attentat, même s'il est terrifiant, ultra cruel, il représente, j'allais dire, une goutte de sang dans l'océan de sang que représente et d'enjeux que représente la guerre russo-ukrainienne de part et d'autre. Donc c'est assez logique. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a un problème à admettre. Hein. C'est un peu une boîte de Pandore. Les musulmans sont presque 20%, 18, 19, 20% maintenant en Russie. Il y a multiples nationalités à l'intérieur de la Fédération de Russie. C'est un peu ouvrir une boîte de Pandore. Autre commentaire important. il y a beaucoup, beaucoup de peuples d'Asie centrale et du Caucase qui sont envoyés en première ligne. Poutine les a mobilisés en première ligne. Donc on sait que dans ces républiques aussi, les gens sont très, très, très mécontents. Les Tadjiks, les Kirghizes, les Tcherkesses, les Tchétchènes, les fameux Tchétchènes, les Daghestanais, tout cela ont été envoyés au casse-pipe. Donc il y a beaucoup de... Et il y a une pénétration de l'État islamique, bien sûr.
Arthur de Vatrigan.
Pendant que le vieux peuple chrétien se bat pour des raisons de frontières dessinées ou des ressources qui ont l'odeur et la couleur du dollar, il y a un autre peuple qui se frotte les mains. C'est celui qui rêve de tous nous soumettre, l'ancien monde, le vieux monde, appelez-le comme vous voulez, et qu'il y a bien une guerre, un conflit global et mondial qui existe. Cet attentat nous le rappelle. Nous, la France, on l'a payé très chèrement pour le savoir. Moscou l'a payé très chèrement, d'autres le paieront aussi. Il serait bon de s'en rappeler.
Politiquement, cette attaque terroriste contre la Russie arrive aussi peut-être au mauvais moment, j'ai envie de dire, pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est à la une du JDD ce matin. L'Europe puissance ne peut pas attendre, dit-il. Comprenez, l'Europe puissance face à la menace russe. Sauf que bon, ces dernières heures, le discours va en guerre du chef de l'État. C'est un petit peu compliqué face à un pays qui est lui-même victime de terrorisme. Quand un peuple est endeuillé par le terrorisme, dit-il, la France est toujours solidaire. C'est ce qu'il a ajouté in extremis à ses confidences au JDD, Marine.
Oui, le JDD qui a eu accès pendant deux jours aux coulisses d'un sommet historique pour doter l'Europe d'une défense puissante et autonome. Jusqu'ici, nous nous remettions aux États-Unis pour nous protéger. Dit le chef de l'État, cette fois-ci, on ne sait pas s'ils vont le faire. C'est donc à l'Europe de prendre en main sa défense.
Je vous retourne la question, messieurs. Est-ce que c'est à l'Europe désormais de prendre en main sa défense?
Non, mais pas plus qu'il existe de peuple chrétien, il n'existe pas de peuple européen. Donc en fait, il existe des nations et c'est parce qu'on défend son territoire, sa terre, son peuple, sa nation, son drapeau, qu'on accepte d'engager sa vie et qu'on est motivé. Alors on a des alliés et dans le cadre d'une alliance, bien sûr, on peut être appelé à sauver ses alliés ou à venir au secours de ses alliés et inversement. Mais ça, c'est les intérêts d'un État et d'un État-nation qui le commande. Vous savez, c'est un vieux serpent de mer, c'est presque le Loch Ness politique de l'Europe. L'Europe puissance et l'Europe de la défense, c'est la CED, ça date de 1951, on nous annonçait l'Europe puissance en 1951. Et ensuite, ça a souvent, enfin tous les 10 ans, l'Europe puissance va naître. En fait, à la place de l'Europe puissance, on a une alliance avec les États-Unis, on a du matériel militaire et des troupes qui sont à 70% américaines sous le commandement du président des États-Unis. Et là, la seule question et le seul enjeu, je dirais, de fond que pose cette question d'Emmanuel Macron, c'est si demain, Donald Trump arrive aux affaires et retire les troupes ou les forces américaines du vieux continent. Là, pour le coup, la question va se poser, mais je pense que ce seront aux nations d'y répondre. L'Allemagne a commencé d'ailleurs à relancer.
Je vais poursuivre avec la question subsidiaire et ce sera pour Arthur de Vatrigan. Doit-on réintroduire le service militaire obligatoire pour les jeunes Français? Je vous laisse découvrir ce sondage avec Marine.
Oui, c'est la question qu'on vous pose ce matin et voici vos réponses. 65% des Français disent y être favorables, 35% contre. Résultat d'un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD.
65% des Français, Arthur de Vatrigan, qui disent être favorables à la réintroduction du service militaire obligatoire pour les jeunes hommes.
Mais c'est oublier qu'on a changé d'arme.
Pour les jeunes Français d'ailleurs.
On a changé d'arme, on est devenu une armée professionnelle. C'est pour ça que le service militaire a été suspendu. Alors il a été suspendu déjà parce que beaucoup n'y allaient plus. Ceux d'en haut qui étaient exonérés parce qu'ils avaient des relations et ceux d'en bas parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Donc on se retrouvait finalement avec pas tant que ça de personnes qui faisaient le service militaire. Ensuite, l'armée française est devenue une armée professionnelle. Donc on n'est pas sur une armée de conscription comme c'était avant. Donc ça n'a pas de sens de faire un service militaire si on continue avec notre armée aujourd'hui. Mais pour revenir sur l'Europe puissance, en effet, Guillaume Bigot a raison, c'est vraiment le vieux serpent de mer. Mais surtout, ça a toujours été un désir de la France et jamais un désir des autres, hein, comme à chaque fois. La France demande quelque chose, les autres refusent simplement parce que bon, les autres n'ont pas de puissance nucléaire. Donc l'Europe puissance, c'était l'OTAN. Aujourd'hui, en effet, les cartes sont rebattues, sauf qu'il ne faut pas oublier que la guerre, c'est la continuité quand même, et quoi qu'il arrive, de la politique. Or, en politique, et notamment en politique extérieure, même au sein de l'Europe, et la guerre en Ukraine le montre, on n'a pas tous les mêmes intérêts et pas tous les mêmes envies. Entre la Hongrie, les pays de l'Est, l'Allemagne, la France, on voit qu'il y a des lignes de friction. Donc une armée commune avec des besoins différents, ça risque d'être compliqué.
Je profite d'avoir deux générations sur ce plateau, entre vous, Arthur de Vatrigan et Guillaume Bigot, mais Guillaume, sans trahir votre âge, vous êtes une génération qui a connu le service militaire.
J'ai fait le service militaire, c'est une bonne expérience d'ailleurs. De brassage social, etc. Simplement, alors il y a deux choses qui sont qu'il faut rappeler. La première, c'est que nécessité fait loi. Et en matière militaire, plus qu'ailleurs. Donc quand il y a eu la guerre du Vietnam, il n'y avait pas de conscription aux États-Unis. Et ils ont rétabli la conscription parce qu'il n'y avait pas le choix. Et parce que quand vous êtes en guerre, dans une guerre intensive, sur un territoire assez vaste, vous êtes obligé finalement de mobiliser tout le monde. Donc ça, nécessité fait loi. Deuxièmement, oui, c'était une demande de longue date des militaires de ne plus avoir au moment de la conscription qu'une armée professionnelle parce qu'ils voulaient plus de matériel, que ça leur coûtait cher, que ça immobilisait du temps, etc. Et donc, ça correspondait surtout à un format de menace qui était celui au lendemain de l'effondrement du mur de Berlin, c'est-à-dire des interventions extérieures avec des troupes très spécialisées et très pointues, et donc plus besoin de former des appelés. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que si demain la guerre de haute intensité ou une intervention même de la France dans un pays assez vaste, hein, il y aura forcément une conscription, inévitablement. On le voit en Ukraine d'ailleurs, il y a eu une conscription.
7h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Marine Sabourin.
133 personnes sont mortes à Moscou vendredi soir au cours de l'attentat revendiqué par l'État islamique. Vladimir Poutine promet de punir les responsables de cette attaque. Il assure que les assaillants ont été arrêtés en chemin vers l'Ukraine sans mentionner le groupe djihadiste. De son côté, Vladimir Zelensky accuse son homologue russe de chercher à rejeter la faute sur l'Ukraine. Retour en France où plusieurs lycées des Hauts-de-France ont reçu des menaces terroristes vendredi et samedi via leur messagerie en ligne piratée. Lundi, 122 établissements vont exploser, est-il écrit dans ce message. Les établissements scolaires concernés resteront ouverts demain, mais dans des conditions de sécurité renforcées. Et puis des centaines de monuments éteints partout dans le monde pendant 60 minutes. Cela se passe à 20h30, heure française. Ce soir, une initiative proposée par l'ONG WWF pour sensibiliser le monde au dérèglement climatique. Entre 1970 et 2018, la quantité de population de vertébrés sauvages a décliné de 69%.
Alors tenez, vous en avez parlé à l'instant justement, on va parler de ces menaces d'attentats qui ont été diffusées ce week-end sur les espaces numériques de travail de collégiens et de lycéens. 122 établissements vont exploser. Voilà ce qu'on a pu lire sur certains de ces messages. Ils visaient essentiellement des collèges et des lycées des Hauts-de-France.
Oui, en milieu de semaine déjà, une cinquantaine d'établissements de la région parisienne a subi une vague de piratage similaire accompagnée d'une vidéo de décapitation. Les explications de Sarah Varni.
De nouvelles académies ont été visées par des piratages de leur compte ENT. Si du côté de l'Académie de Lille, le nombre d'établissements touchés n'a pas été communiqué, du côté d'Amiens, ce sont 5 établissements, 3 lycées et 2 collèges qui ont été piratés, selon la préfecture de la Somme.
Vers 12h15, on a bloqué l'ENT, c'est-à-dire l'espace numérique de travail, parce qu'il y avait des usurpations d'identité. Et on ne voulait pas justement qu'il y ait des menaces qui soient faites par la messagerie de l'espace numérique de travail. On s'est mis d'accord avec le rectorat et donc on a tout coupé. Ce n'est pas une cyberattaque d'ampleur, mais c'est surtout de l'usurpation d'identité. Il ne s'agit pas de créer de l'inquiétude, il ne s'agit pas justement d'avoir une psychose qui puisse se développer. C'est la raison pour laquelle on a pris la décision justement de tout fermer.
La préfecture de la Somme souligne que les établissements resteront ouverts ce lundi dans des conditions de sécurité renforcées. Mercredi et jeudi, une cinquantaine d'établissements d'Île-de-France ont subi un piratage similaire. Et en janvier dernier, des établissements scolaires avaient été évacués après un piratage. Des cyberattaques des ENT qui se multiplient ces dernières années, ce qui n'étonne pas les experts en sécurité numérique.
Les systèmes de communication des établissements sont souvent assez ouverts, parce que c'est des systèmes qui doivent permettre de communiquer avec les parents d'élèves, de communiquer avec les élèves aussi de temps en temps. Donc c'est a priori des systèmes qui sont quand même relativement ouverts, des systèmes qui sont faits pour communiquer plutôt que avec une optique de cybersécurité renforcée.
Gabriel Attal a annoncé un audit de ces plateformes ENT. En parallèle, les chefs d'établissement touchés ont déposé plainte et les services d'enquête spécialisés ont été mobilisés pour identifier le ou les auteurs.
On sera tout à l'heure avec un spécialiste de la cybersécurité. Ces menaces sont prises très au sérieux. La sécurité des établissements sera renforcée demain. On pense évidemment aux parents et aux enfants qui sont peut-être stressés à l'idée de retourner en cours demain. On ne sait évidemment pas si ces menaces sont crédibles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière ça, il y a une volonté de déstabiliser.
Bien sûr. Et en fait, il ne faut jamais oublier que le but du terrorisme, c'est de créer la terreur. Donc, de deux choses l'une, soit suffisamment de gens ont reçu des messages et il fallait débunker, comme on dit, il fallait rassurer tout le monde en parlant, soit il n'y a pas trop de gens qui ont reçu, et je pense que ce n'est pas nécessairement une très bonne politique d'en parler et de s'en faire l'écho, parce que précisément, on fait le travail des terroristes avant même qu'il y ait des attentats, et on diffuse la terreur avant même qu'il y ait des attentats. Il faut bien expliquer quand même que fort heureusement, c'est pas seulement que beaucoup d'attentats sont déjoués, c'est que fort heureusement, ces messages tendant à diffuser la crainte, la terreur, annonçant des attentats, l'essentiel d'entre ces messages sont des messages faux.
Et on l'a vu depuis le mois de septembre, même dans des lieux culturels, Arthur de Matrigan.
Il faut pas oublier que dans le dispositif islamiste, l'école joue un rôle aussi fondamental et symétrique que dans la philosophie de l'école républicaine. C'est-à-dire que c'est pendant l'école républicaine, c'est là que la République doit faire des Français. Dans le dispositif islamiste, c'est là qu'on doit les empêcher de le devenir. Et tous les moyens sont bons. Prosélytisme, menaces, attentats, climat de terreur.
La délinquance du quotidien à présent face au risque d'agression physique, d'agression sexuelle ou encore de vol à l'arraché. De plus en plus de femmes suivent désormais des cours d'autodéfense, Marine.
Oui, car plus d'une femme sur deux a déjà été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle selon un sondage Odoxa datant de 2017. Alors dans ces cours, les objectifs sont clairs, acquérir des réflexes en cas d'attaque et prendre confiance en ses capacités. Jérôme Rampenot a suivi l'un d'entre eux à Tonneins dans le Lot-et-Garonne. Regardez.
Dès que le couteau arrive, boum, contrôlez le bras, tout simplement. Sauf qu'au moment où je vais contrôler le bras, je laisse de l'espace, je vais partir de l'autre côté.
Dans ce cours de Krav Maga et de self-défense, des hommes, mais aussi beaucoup de femmes. Ce soir, le cours est dédié aux attaques au couteau. Ici, elles apprennent à avoir les bons réflexes face à une situation dangereuse.
La peur peut nous tétaniser, donc si on sait à peu près ce qu'on va faire, on va le faire de manière naturelle.
On est beaucoup plus attentif à ce qui nous entoure. Et des fois, on regarde en arrière. Si on voit qu'il y a quelqu'un qui nous suit, on prête beaucoup plus attention. Et il y a surtout la confiance en soi qui ressort.
Pour Michael, le but n'est pas d'en faire des combattantes, mais de leur apprendre à se défendre avant tout.
Il n'y a pas de technique, on va dire, de cinéma, ni de cascade. C'est vraiment sur des gestes naturels du corps, ce que le cerveau a enregistré depuis petit. Avoir les bons gestes, le bon regard, la bonne attitude, surtout de se protéger avant tout, de savoir se battre. C'est le plus important.
Pour la municipalité de Tonneins, ces cours sont essentiels, car même dans une petite commune, les agressions existent. Et pas seulement dans la rue.
On a encore beaucoup trop de féminicides aujourd'hui en France. Ça va être un vrai travail de fond, de terrain. Et effectivement, quand vous êtes à la maison et que votre conjoint pète les câbles pour diverses raisons, il faut savoir comment réagir et comment réagir vite pour sauver sa vie et puis sauver aussi parfois la vie de ses enfants.
Face aux recrudescences d'agressions, les cours de Michael sont un succès auprès des femmes. La plus jeune a 12 ans et la plus âgée, 84.
Autre fléau qu'on évoquera ce matin, juste après la pause, les rodéos urbains. On embarquera avec la police municipale de Compiègne. Vous allez le voir, c'est parfois bien difficile pour eux. À tout de suite. Quasiment 7h30 sur CNews. Il nous a rejoint sur ce plateau. Bertrand Descaires, bonjour.
Bonjour.
Pour la chronique royale, ce sera tout à l'heure à 7h45. On évoquera notamment la santé de la princesse Kate Middleton avec vous sur ce plateau, puisque c'est l'actu majeure de la royauté européenne, la plus importante des monarchies européennes, qui est la monarchie britannique. On est toujours avec Arthur de Vatrigan sur ce plateau pour commenter l'actualité. Et Guillaume Bigot, bien sûr, Marine Sabourin pour le journal. Et voici tout de suite les titres du journal de 7h30. À la une, on embarque ce matin avec la police municipale de Compiègne en lutte contre les rodéos urbains, un fléau qui revient avec les beaux jours. Mais vous allez voir qu'il est bien difficile d'interrompre des jeunes qui ne craignent plus l'autorité des forces de l'ordre. Le reportage dès le début de ce journal. Nous irons aussi à Nice, dans le quartier des Moulins, bien connu pour ses trafics de stupéfiants. Ce marché de la drogue enregistre un chiffre d'affaires estimé à plus de 15 000 euros par jour. Les opérations Place Net s'y sont multipliées ces derniers mois. Pour autant, la situation s'est-elle améliorée sur place? C'est ce que nous verrons dans quelques minutes. Et puis, dernier jour de la campagne du SIDAction ce dimanche. CNews est une nouvelle fois mobilisée dans la lutte contre le virus du SIDA. Une équipe a suivi des bénévoles qui apportent un soutien psychologique et matériel à ceux qui sont touchés par le VIH. Ça se passe à Bordeaux. Et puis, je le rappelle, à 8h30, nous serons en direct avec Florence Thune, directrice générale du SIDAction. On vous emmène donc ce matin à Compiègne, dans l'Oise. Reportage embarqué avec la police municipale qui tente de lutter tant bien que mal contre les rodéos urbains, le fléau qui revient en force avec le retour des beaux jours.
Oui, vous allez le voir, c'est très compliqué d'interrompre ces jeunes qui ne semblent craindre rien ni personne. Certains narguent les policiers tout en mettant en danger la vie des habitants. Le reportage est signé Fabrice Elsner avec le récit de Mathilde Ibanez.
Les équipages, je viens de recevoir un appel téléphonique d'une femme justement qui a failli avoir un accident à cause de deux motos qui ont croisé la route.
Ce type d'appel d'urgence, c'est le quotidien de ces agents de la police municipale. Chaque jour, ils patrouillent à Compiègne pour tenter de lutter contre le fléau des rodéos urbains.
C'est vraiment des opérations qui seront programmées, qu'on met en place avec des stratégies voilà, pour ne pas non plus aller sur le secteur et envenimer les choses et rentrer dans le jeu des jeunes.
Rapidement repérés par les jeunes, ils se font suivre dès l'entrée dans le quartier.
Ouais, donc on a la moto bleue qui nous suit hein, au niveau du mât. Ouais, ils ont fait demi-tour au commerce, ça repart dans l'autre sens.
Mais une fois sortis de la voiture... Le jeu du chat et la souris est lancé entre les policiers et les jeunes.
Voilà, vous avez un peu l'exemple. Si on s'arrête et qu'on met pied à terre, bah, ils vont prendre la chute.
Impossible donc pour ces agents de travailler efficacement sans prendre des risques.
Pour que eux n'aient pas d'accident, que nous aussi on travaille en sécurité et qu'on ne soit pas mis en danger également.
Pourtant ici, à force de négociations avec la BAC, ils arrivent à mettre pied à terre un des individus. Mais un instant après, d'autres jeunes continuent leur manège narguant les forces de l'ordre. Une présence sur place importante, mais compliquée si les actions ne sont pas coordonnées avec les autres services de police.
Police nationale, police municipale sont absolument complémentaires. À Compiègne, ça marche main dans la main. Seule la police nationale a la capacité de procéder à des contrôles d'identité à certains actes d'investigation. La police municipale, elle a l'avantage d'être disponible, de bien connaître les quartiers.
La mairie a mis en place un site internet Stop Rodéo pour permettre aux habitants de prévenir les forces de l'ordre sous couvert d'anonymat.
Alors je trouve que ce reportage, il est très important parce qu'on est toujours prompt à donner des leçons sur comment on doit appréhender ce type d'individu. Et là, quand on est embarqué avec la police municipale, on se rend compte de la difficulté que c'est au quotidien. Quand ils mettent un pied à terre, ces individus s'enfuient. Et s'ils restent dans leur voiture, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Leur foncer dessus avec les conséquences que l'on connaît? Évidemment, c'est très compliqué.
C'est la législation britannique, comme vous savez, qui autorise les interceptions au contact. Qui crée d'ailleurs, on a vu parfois, parce que ces contacts, chez nous, ça arrive, mais ça relève plus de l'accident que de l'acte intentionnel. Et on voit parfois les effets que ça peut produire. En vérité, ce mécanisme des rodéos dit deux choses. Il dit d'abord qu'il y a une sorte de volonté de prendre le contrôle du territoire, de parader, de défier en fait l'ordre et l'autorité. Et ensuite, il dit qu'il y a une recherche de prise de risque, parce que là, on les voit à peu près calmes sur leur monture mécanique, mais en général, d'abord, ils prennent des risques pour eux-mêmes, bon, c'est à la rigueur leur problème, mais ils mettent en danger les autres, et parfois gravement, et parfois ça débouche sur des accidents mortels, soit d'un enfant qui avait été percuté. Donc en fait, ce qu'ils font, ils font des figures, etc. C'est vraiment une recherche du danger, de l'adrénaline, mais là où ça me fascine, on parlait du service militaire tout à l'heure, c'est que quand on est un garçon, qu'on a 14, 15, 16, 17 ans, il y a quelque chose comme ça. Et donc, dans toutes les sociétés, c'est l'hérite initiatique, on en fait quelque chose. Cette espèce de pulsion de violence, elle est transformée en force. Certains, à l'occasion, qui sont un peu timides, apprennent à se défendre et d'autres apprennent à canaliser leur énergie. Et voilà. Mais la société ne propose plus ça, ou alors à travers les jeux vidéo. Et donc, ces gamins se prennent des risques pour eux et pour les autres.
Ce qui est effarant aussi, c'est la façon dont ils narguent les forces de l'ordre. C'est-à-dire que certains véhicules, certaines motos, suivent littéralement la voiture de police pour leur montrer.
La contre-culture racaille de cité.
Ils n'ont aucune crainte des forces de l'ordre et sont là même pour leur montrer que finalement, c'est leur territoire, qu'ils font ce qu'ils veulent.
Mais ils ont raison, de leur point de vue, parce qu'en effet, ils n'ont pas de crainte à avoir. Déjà parce que bon, sur le principe du rodéo, on sait que ça ressort au printemps comme les bourgeons et que c'est souvent des voitures volées, non immatriculées, et donc même si on arrive à les arrêter, le suivi juridique est très compliqué. Ensuite, en effet, la doctrine française n'est pas la même que la doctrine anglaise, et quand même la doctrine anglaise serait acceptée en France, les policiers ne le feraient pas pour une raison très simple, c'est qu'ils savent qu'ils sauront parfaitement que dans les minutes qui suivront l'interpellation, ils auraient une pancarte d'assassin agrafée par LFI dans le dos, ils auraient leur nom, leur adresse qui fuiterait et donc leur famille en danger. Et sans parler évidemment de la garde à vue, des procès et compagnie. Donc on sait que les policiers, malheureusement, ont les mains liées. Et donc les voyous, les racailles le savent. Et donc on profite évidemment. Mais encore une fois, là on peut dire c'est un jeu, très bien, sauf qu'il y a des morts. Des morts de personnes innocentes, des morts d'enfants, des morts de jeunes femmes, des morts de personnes âgées. Et tous les ans, il y en a. On pourra peut-être un jour saisir vraiment de la réalité et mettre les moyens pour arrêter. Ou alors, dans ces cas-là, on dit on assume et il y aura des morts et vous ne baladez pas à côté, quoi.
Les moyens, on va également en parler du côté de Nice. Les opérations Place Nette se multiplient partout sur le territoire pour lutter contre les trafics de stupéfiants. Vous le savez, puisque Emmanuel Macron en a réclamé 10 par semaine. On va prendre la direction donc, du quartier des Moulins à Nice, marché de la drogue à ciel ouvert, où les forces de l'ordre multiplient les actions, mais ne voient pas toujours la différence, Marine.
Oui, les syndicats de police estiment manquer de moyens pour pouvoir régler le problème dans la durée. Franck Trivio s'est rendu sur place. Les images sont commentées par Mathilde Ibanez.
Les opérations Place Nette s'intensifient depuis plusieurs mois ici, dans le quartier des Moulins à Nice, où le trafic de drogue est le cauchemar des riverains.
Tous les soirs, ce square est squatté et on les voit de loin. Hein. Tout le trafic se met en place ici, une terreur qui se met en place gentiment. Et là, on a un peu d'État qui nous dit « attention, on est là, mais bon, on n'a plus de pouvoir, on n'a plus de vie, on n'a plus rien ».
Pour les forces de police, un seul objectif, nuire le plus possible à la vie des trafiquants.
Ce qu'il faut, c'est pilonner de chaque instant par ces opérations Place Nette. Elles doivent donc s'inscrire dans la durée pour être efficaces. Ça, c'est capital. L'idée, c'est de se dire de créer la crise économique.
Mais pour arriver à tenir sur la durée, les forces de l'ordre réclament une centaine d'effectifs supplémentaires, aussi bien sur le terrain que dans les bureaux pour mener à bien les enquêtes.
Nos collègues sont absolument, je parle des enquêteurs, au four et au moulin. Et on a besoin à Nice, urgemment, d'OPJ et d'enquêteurs sur le terrain pour que ces trafics soient aussi démantelés.
Des opérations Place Nette qui ont déjà fait leurs preuves.
On a procédé à 14 interpellations et une dizaine de kilos de cocaïne ont été saisis, des armes de poing. Voilà, on a un bilan d'ailleurs assez éloquent sur l'année 2023 puisqu'on a 100 kilos de cocaïne, une centaine d'armes également qui ont été saisies, 3 tonnes de résine.
Il s'agit d'augmenter le nombre d'opérations pour ne pas laisser d'espace aux dealers.
Autre chiffre vertigineux à présent, ceux de la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Plus de 17 milliards d'euros au total pour l'année 2023.
Le gouvernement salue cette semaine des résultats historiques. Nous n'avons jamais autant traqué la fraude, assure Gabriel Attal. Les détails de ce chiffre avec Régine Delfour.
Faux arrêts de travail, allocations familiales indûment versées, piscines non déclarées. Les chiffres de la fraude fiscale et sociale donnent le tournis. Grâce à l'intelligence artificielle, 140 000 piscines non déclarées ont été détectées, ce qui représente 40 millions d'euros de la taxe foncière. Dans le viseur également, les fausses ordonnances et les faux arrêts de travail vendus pour quelques dizaines d'euros sur les réseaux sociaux. Une perte estimée à environ 16 millions d'euros. À noter également les fraudes liées aux retraites versées à l'étranger. Le Premier ministre a d'ailleurs déclaré mercredi:
nous avons doublé les contrôles de retraités résidant à l'étranger et nous en avons détecté, rien qu'en Algérie, 750 dossiers frauduleux l'année dernière.
La fraude aux prestations sociales affiche aussi un chiffre historique, plus d'un milliard d'euros, principalement dû à la surfacturation ou à la facturation d'actes fictifs par un professionnel de santé. Le versement des allocations familiales est également très contrôlé. En un an, les caisses d'allocations familiales ont renforcé d'un tiers leur vérification. La fraude s'élève tout de même à 400 millions d'euros.
Enjeu majeur, la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale, sachant qu'on nous demande en plus des économies de 10 milliards en 2024, 20 milliards en 2025. Guillaume Bigot.
Oui, vous avez tout dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a vraiment une pression sur les contribuables que nous sommes, en plus pour rembourser une dette qu'on n'arrivera pas à rembourser, mais passons, et qu'on paye autant d'argent public, c'est pas acceptable qu'il y ait de la fraude. Donc moi je comprends même pas d'ailleurs ce distinguo qui est opéré. On met de la politique là où il n'y a pas besoin d'en avoir. L'argent public est sacré, devrait être sacré, pour la gauche comme pour la droite d'ailleurs. Pourquoi parler de fraude sociale et fraude fiscale? C'est de l'argent public qui est volé, qui est détourné. Quelles qu'en soient les modalités, si vous voulez, que vous ayez une carte vitale que vous n'ayez pas à avoir, que vous soyez un allocataire à l'étranger sans avoir le droit à cette allocation, que vous soyez une grande entreprise multinationale qui s'installe ou qui sort ses bénéfices au Luxembourg, en Irlande, etc. De toute façon,
faut arrêter d'être les bonnes poires.
Exactement. Alors les montants sont pas tout à fait les mêmes, hein, 10, 15 milliards pour la fraude sociale. Peut-être 80 à 100 milliards pour la fraude fiscale, mais en fait c'est le même problème, c'est l'argent public qui est détourné. Bon.
Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de moyens pour ça. Alors, on recrute des agents et ça se fait progressivement. Mais on a aussi l'imagerie satellite, l'intelligence artificielle. C'est du James Bond, quoi.
Oui, on a de plus en plus de moyens. Après, il y a aussi un sujet politique. Fraude sociale, on sait où ça part. Vous avez eu les chiffres sur les retraites, 750 dossiers bizarres en Algérie. Sur les cartes de sécurité sociale, c'est pareil. C'est pas des fraudes à Clermont-Ferrand qui se passent. Donc, il y a un sujet politique également. Là, si j'ai bien retenu le chiffre, c'est 17 milliards cette année. Avec ce chiffre-là, pas besoin de faire de réforme des retraites. Vous n'avez pas besoin de faire de loi euthanasie puisque vous créez des soins palliatifs dans chaque coin de kilomètre carré de la France. Vous pouvez aider l'Ukraine et vous n'avez pas besoin d'augmenter les impôts. Donc on voit en effet les conséquences directes dans le quotidien des Français du montant de cette fraude.
Allez, je vous propose d'ouvrir sur la semaine politique à venir cette fois. Emmanuel Macron en Guyane à partir de demain pour une visite de 2 jours. Le chef de l'État est attendu de pied ferme dans un contexte très tendu.
Oui, le département a connu une année 2023 record en termes de criminalité avec 59 homicides et 250 tentatives. Alors quel est le programme du chef de l'État? Les détails de Florian Tardif qui est sur place pour CNews.
Oui, visite attendue, très attendue du chef de l'État, puisque le territoire guyanais fait face à de multiples problèmes entre criminalité, chômage et épidémie. Au cours de ses 48 heures sur place, Emmanuel Macron aura l'occasion d'aborder une partie de ces sujets, une partie seulement, et c'est critiqué d'ailleurs par la population sur place. Au programme de sa visite, 3 dossiers, principalement le dossier sécuritaire. Il sera question de lutte contre l'orpaillage illégal, 10 fois plus important que l'extraction légale de l'or sur place. Le dossier institutionnel, il sera question de l'évolution statutaire de l'île, notamment lors d'un échange que le président de la République aura avec des élus locaux. Et troisième et dernier sujet qui sera abordé par le chef de l'État, le dossier spatial. Il se rendra à Kourou pour visiter le pas de tir de la fusée Ariane 6. Une visite, vous l'avez compris, au pas de charge qui ne permettra pas forcément au président de la République de resserrer les liens avec une population défiante à son égard, puisque 60% de la population ici a voté pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle de 2022 au second tour.
On parle également ce matin du dernier jour de campagne du SIDAction. CNews se mobilise une nouvelle fois dans la lutte contre le VIH.
À cette occasion, notre journaliste Antoine Estève s'est rendu auprès de ceux qui accompagnent bénévolement les personnes porteuses du virus. En Gironde, l'association du GAPS leur apporte un soutien psychologique et une aide dans la gestion de leur parcours de santé. Regardez.
Rodolphe a quitté son pays d'Europe de l'Est dans une situation de grande précarité. Il était porteur du virus et victime de terribles discriminations au quotidien, même avec ses amis.
Quand il me croisait, il me posait la question. « Ah, salut, c'est toi? T'es encore vivant ?» Il m'appelait le cadavre qui marche encore.
Il constate qu'il y a encore de nombreuses incompréhensions face à cette maladie.
Pourquoi on n'a pas peur quand il y a quelqu'un qui a la grippe, quoi? C'est une maladie qui se transmet, mais les gens n'ont pas peur.
Les personnes suivies par l'association vivent avec le VIH, mais sont aussi vulnérables, en difficulté financièrement, sans emploi ou sans logement.
Il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé à faire toutes les démarches. Je pourrais continuer ici à travailler, à vivre ici en France.
Une grande majorité des personnes qui vivent avec le VIH sont sous traitement et sont en parfaite santé. Pourtant, leur vie est toujours compliquée.
On a eu des cas, enfin, par dizaines de personnes qui ont perdu leur emploi parce que la pathologie s'est ébruitée, qui ont perdu leurs compagnons, qui ont été bannis de leur communauté. Enfin, ça, c'est encore aujourd'hui, c'est monnaie courante.
Cette association va bientôt disparaître. Ses activités seront intégrées au CHU de Bordeaux. Ici, on a peur que les personnes aidées se retrouvent seules.
On n'a vraiment aucune garantie sur le fait qu'on pourra continuer à accompagner les personnes avec la même qualité. Est-ce que dans 3 ans, le GAP, ce sera un souvenir dissous à l'intérieur du CHU? Ou est-ce qu'au contraire, le CHU va vraiment valoriser notre travail et nous permettre de maintenir la qualité d'accompagnement? On n'en a aucune idée.
Le SIDAction permet de mettre en lumière le travail quotidien de ses volontaires et d'expliquer encore et toujours que le VIH est devenu une maladie comme les autres.
Et pour faire vos dons, c'est encore possible aujourd'hui. Il suffit d'aller sur sidaction.org ou alors appeler le 110 ou encore envoyer don par SMS au 92-110. Il y a d'ores et déjà plus de 3 millions d'euros qui ont été récoltés. 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Marine Sabourin.
En Russie, cette journée de deuil national décrétée après le terrible attentat de Moscou où 133 personnes ont perdu la vie. Vladimir Poutine dénonce un acte terroriste barbare. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière dans le pays depuis une vingtaine d'années. Il est temps d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Ce sont les mots du chef de l'ONU, Antonio Guterres, hier en déplacement aux portes de Gaza. Dans le même temps, un responsable du Hamas faisait état hier de profondes divergences avec Israël au sujet d'une trêve. L'armée israélienne explique quant à elle qu'elle poursuivra son offensive jusqu'à la capture du dernier terroriste. Et puis en Ukraine, les forces russes ont lancé ce matin des attaques aériennes contre Kiev et la région de Lviv. Une alerte aérienne a été déclenchée dans toute l'Ukraine. Ne quittez pas les abris, demande le maire de Kiev sur Telegram.
Allez, un petit peu plus léger cette fois. Est-ce que vous aimez le barbecue autour de la table? Guillaume Bigot.
J'adore.
C'est bientôt la saison, c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer ça. Arthur de Vatrigan aussi?
Évidemment.
C'est maintenant qu'il faut commencer à s'y mettre et surtout à préparer le matériel pour faire son barbecue. Une idée de sortie ce dimanche, le salon du barbecue, ça se tient au Parc Floral, dans le 12e arrondissement de Paris, aux abords du Bois de Vincennes, au menu des cours de cuisine, de la bonne charcuterie française, mais aussi des plats un petit peu plus inattendus, Marine.
Oui, 200 exposants du monde entier font découvrir leurs produits au grand public et vous allez le voir, les tendances ont bien changé. Reportage de Laurent Sélarié et Noémie Hardy.
On n'a pas l'habitude de manger.
Un cake au barbecue, des fruits, des légumes ou encore du fromage. On trouve moins de viande dans les barbecues. Aujourd'hui, ce type de cuisson peut être utilisé pour tous les produits.
On est en train de faire des pizzas juste à côté. Et puis plus tard, ce matin, on a fait les pancakes, les crêpes. Donc tout y passe en fait. Le poisson, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est les glaces.
L'utilisation des barbecues a évolué et permet de libérer sa créativité.
Vous allez le faire brûler pendant plusieurs heures à la flamme. Et en fait, l'extérieur devient complètement noir. Et dedans, ça compote. Ça vous fait des petits morceaux que vous venez saisir à la fin sur la plaque. Vous mettez un petit peu de rhum, un petit peu de glace vanille. Et là, c'est le top. Voilà.
Barbecue au charbon de bois, électrique ou à gaz, tous permettent de créer de nouvelles recettes. L'image du barbecue change. Et la gastronomie française en profite.
L'arrivée de nouveaux produits, c'est vrai qu'à l'époque on voyait des barbecues, il y avait une grille ouverte avec trois saucisses qui grillent et un gars tout seul dans le fond de son jardin, ce qui était un peu triste. Aujourd'hui on voit des barbecues, c'est aussi les barbecues qui permettent aux gens de faire d'autres choses que de la viande ou des saucisses. On va avoir des barbecues qui permettent de fumer, fumer à chaud, fumer à froid, griller, rôtir, braiser, etc.
Classique ou innovant, le barbecue reste avant tout utilisé pour le même objectif, partager un moment convivial avec ses proches.
Bon, voilà pour les idées cuisine de l'été. Notre rendez-vous hebdomadaire à présent, c'est avec vous Bertrand Descaires. Merci d'être là. La chronique royale, vous avez choisi Bertrand de nous parler ce matin du lieu où Kate Middleton va passer sa convalescence. Ça s'appelle l'Adelaide Cottage, je crois. Alors on est curieux, c'est comment cet Adelaide Cottage?
Absolument. On est dans le magnifique parc du château de Windsor, très précisément au sud-est du célèbre château. On est à 40 km vraiment du centre de Londres. Alors c'est un cottage, c'est une grande maison en quelque sorte, et c'est historique comme chaque fois avec la famille royale. Hein. Ça date de 1831, on sait que c'est le roi Guillaume IV qui l'a fait construire pour son épouse Adelaide. La reine Victoria, nous dit-on, y était habituée, elle venait régulièrement y prendre le temps. Ce qui est intéressant dans ce cottage que l'on aperçoit là, en réalité, c'est qu'il est scindé en deux parties. Il va y avoir une partie droite, que l'on va appeler Adelaide Cottage, qui est réservée à William, Kate et leurs trois enfants. Il est doté de quatre chambres et il va être réuni à une partie gauche, Adelaide Lodge, qui, elle, va être réservée au personnel. Ce qui est intéressant, pourquoi ont-ils choisi cette demeure, nous dit-on, parce que le parc et la propriété sont dotés de sept entrées et sorties qui leur permettent mais donc une discrétion totale.
Alors on imagine un personnel réduit, justement.
Oui, je vous le disais, absolument, c'est modeste. C'est une grande maison. Il y a un bureau, il y a une bibliothèque, il y a différentes cheminées que l'on doit notamment à John Nash. Et ils sont entourés d'un personnel réduit. Vous le dites, il y a la nanny des enfants royaux, qui est Maria Borallo, qui est un peu une Mary Poppins 2.0. Il y a une fameuse gouvernante qui est Antonella Frazone et Kate y reçoit quotidiennement sa secrétaire particulière, Natalie Barrows, qui est alors, c'est la tradition en Angleterre, sous la direction du lieutenant-colonel Tom White, qui lui est un petit peu, si vous voulez, le chef de cabinet. On dit aussi que dans ce cottage, il y a la présence d'un chien. Orla, c'est un cocker espagnol dont le couple et les trois enfants sont très très proches et c'est un cadeau du frère de Kate Middleton, James, qui élève des chiens.
Bon, voilà. Les Britanniques seront rassurés, elle est très bien entourée, Kate Middleton. Quelles sont les occupations, les hobbies de la princesse de Galles?
Alors, elle est une très grande cruciverbiste. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire?
Mots croisés.
Absolument, elle est fan de mots croisés et elle est tellement bonne dans cet exercice qu'elle remplit la grille du Times qui, dit-on, est une des plus compliquées en Angleterre. Elle est
aime aussi beaucoup, beaucoup marcher. Elle aime le piano. Elle aime également la photographie.
Et vous allez nous donner son adresse, je crois ?
Absolument, je voulais vous donner son adresse parce que depuis vendredi et depuis cette triste annonce, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux et qui me disent « Bertrand, on aimerait... »
Ah oui, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était pour y aller, donc c'est pour lui écrire.
Non, c'est plutôt pour lui écrire. Ah oui, mais je vous assure que c'est ultra sécurisé, je ne suis pas sûr que vous pourrez rentrer. On aimerait lui écrire. Eh bien voilà, j'ai souhaité vous communiquer son adresse. Où et comment lui écrire ? Eh bien, vous écrivez à son Altesse Royale, la Princesse de Galles. Si vous êtes très bon avec l'anglais, vous pouvez oser... Royal Highness, the Princess of Wales, et vous écrivez donc à Adelaide Cottage, qui se situe dans le Windsor Great Park. On est dans le Berkshire, et voilà, vous avez toutes les indications à pouvoir indiquer de façon à ce que votre courrier y arrive.
Est-ce qu'on sait si elle lit le français ?
Alors, le français c'est un peu compliqué. Ce que la presse estime en tout cas, c'est que Charles III, ça on le sait, a reçu 7000 lettres à l'occasion de l'annonce de son cancer pour voilà lui redonner force et courage. On estime que Kate Middleton va en recevoir plus de 50 000 et qu'elle lit et qu'elle répond elle-même à pas mal, nous dit-on, pas mal de courriers. Il faut dire que pour l'instant, elle a un peu de temps.
Merci beaucoup Bertrand Descartes. La chronique royale, on vous retrouve bien sûr dimanche prochain avec grand plaisir pour une nouvelle chronique. Voici les sports tout de suite.
Que vous soyez le roi du design ou la reine des animaux, retrouvez votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
Ce programme vous est proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Et Marine, on revient sur le France-Allemagne hier.
Oui, les Bleus ont perdu 2-0 en match amical sur la pelouse de Lyon. Score peu rassurant à 3 mois du début de l'Euro. Ouverture du score éclair de l'Allemagne avec Florian Wirtz dès la première minute de jeu. Le joueur marque un but qui s'inscrit dans l'histoire pour sa rapidité dans le match. Les Bleus, quant à eux, joueront mardi un deuxième match amical contre le Chili à Marseille.
Ce programme vous a été proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Que vous soyez la reine de la déco ou le roi du zen, c'était votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
Journée de deuil qui s'entame en Russie après l'attentat de Moscou. On en parle dans quelques instants après la pause. Le temps pour moi de remercier mes invités Arthur de Vatrigan et Bertrand Descartes. On retrouve Guillaume Bigot dans un instant et un autre invité, Vincent Roy, qui va nous rejoindre. À tout de suite.
La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
Retrouvez la météo avec Body Minute, un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
La météo de Karine Durand qui nous promet aujourd'hui est bien malheureusement des températures hivernales.
Oui, un ressenti vraiment digne de l'hiver. Et en plus, nous sommes le dimanche des rameaux. Il y a un dicton météo très célèbre sur le jour des rameaux. Vent des rameaux ne change pas de sitôt. Selon la croyance, eh bien, le vent dominant aujourd'hui serait celui qu'on aurait le plus souvent au cours de l'année et surtout de l'été. Et aujourd'hui, nous avons un vent dominant d'ouest à nord-ouest. Cela veut dire un temps frais et humide. Alors évidemment, il n'y a pas de fondement scientifique derrière cette croyance, mais c'est toujours amusant à signaler. Alors en ce qui concerne le temps, sur l'ouest du pays, ça s'améliore progressivement avec davantage de soleil, mais toujours une ambiance ventée, donc un ressenti frais. On a encore quelques averses qui circulent sur la région Grand Est, quelques chutes de neige au-delà de 700-800 mètres sur les Vosges, le Jura, 800 à 1000 mètres plutôt sur les Alpes, quelques averses parfois copieuses sur les Pyrénées et toujours du vent fort en Méditerranée et spécialement en Corse autour de Bastia, plus de 100 km à l'heure. Au cours de l'après-midi, on va retrouver des conditions qui continuent à s'améliorer sur tout l'ouest avec un temps globalement calme et sec. Il y a moins d'averses qu'hier sur la moitié nord. Attention quand même sur la région Grand Est avec quelques fortes averses possibles, du tonnerre, parfois de la grêle et du grésil. Les températures, elles sont basses. Le ressenti est vraiment digne de janvier-février localement. 2 à 5 degrés sur les côtes de la mer du Nord, 6 degrés à peine en Bretagne. Un maximum de 11 degrés pour Perpignan, pour Nice ou encore Cannes. Et au cours de l'après-midi, les valeurs sont assez similaires à celles de la veille sur la moitié nord. 12 à Paris, seulement 8 à Nancy. Un maximum de 18 sur le pourtour méditerranéen. Les températures baissent un petit peu au sud-est.
C'était la météo avec Body Minute, un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
30 minutes qu'il est comme un lion en cage, en attendant d'entrer dans l'arène de l'info. C'est Vincent Roy qui était à l'extérieur du plateau bien à l'heure ce matin.
Mais perturbé.
Pourquoi?
Mais parce que,
dites-moi
parce que d'ordinaire...
Je voudrais pas vous perturber. Ah non, ça m'embête.
Parce que d'ordinaire, je suis assis à votre droite. J'ai mes habitudes. Et aujourd'hui, Marine Sabourin a décidé d'occuper...
C'est ça le conservatisme.
Alors, à droite, je mets les gens de confiance. Voilà. Marine, je suis navré. Voilà. Donc vous, je sais pas ce qui s'est passé entre nous, mais
oui,
on a perdu quelque chose,
oui,
un lien, une confiance.
Vous dire, on va le retrouver.
Moi, je dis rien. Je suis très content.
Toujours à ma droite, d'ailleurs, Guillaume Bigot. Allez, je vous ai présenté Guillaume Bigot, Marine Sabourin, voici les titres de votre journal de 8h. Bon réveil à tous sur CNews. La Russie se réveille en deuil justement ce dimanche. C'est le bilan le plus lourd pour un acte terroriste commis sur le sol européen. Au moins 133 morts, victimes de l'islamisme radical. Dans une salle de concert, je vous le rappelle, vendredi soir, selon le Kremlin, 4 assaillants étaient interpellés en direction de l'Ukraine. L'Ukraine dont Vladimir Poutine semble clairement pointer du doigt la complicité. Hypothèse crédible ou prétexte à un déchaînement de violence. Nous poserons la question au géopolitologue Gérard Vespierre dans quelques instants et à mes invités sur ce plateau. L'angoisse pour de nombreux parents d'élèves qui vont reprendre les cours ce lundi dans les Hauts-de-France. De nouvelles menaces d'attentats ont été diffusées ce week-end sur les espaces numériques de travail de centaines d'adolescents. Des menaces prises très au sérieux. La sécurité sera renforcée demain matin aux abords de ces établissements. On fera le point dans ce journal. C'est aujourd'hui le dimanche des Rameaux, dimanche qui précède la Semaine Sainte pour les catholiques. Pour l'occasion, on vous montre ce matin une tradition corse, je vais voir si je le prononce bien, les croûtes en palme. Elles sont placées en guise de porte-bonheur dans les maisons après avoir été bénies. Reportage à Poreto, un petit village du Cap Corse, et c'est à la fin de ce journal. La Russie observe une journée de deuil national ce dimanche après l'attaque d'une salle de concert à Moscou. C'était vendredi soir, revendiquée par le groupe État islamique. Le bilan est terrible, je vous le disais, au moins 133 morts et 140 blessés. Un premier coup de filet a permis d'interpeller 11 personnes, dont 4 assaillants présumés.
Ces 4 individus seraient des citoyens étrangers selon le Kremlin. Une enquête pour actes terroristes a été ouverte. On fait le point sur ces dernières informations avec Sarah Varni.
Au lendemain de l'assaut, le Kremlin a annoncé avoir interpellé 11 personnes, dont 4 assaillants suspectés d'avoir directement participé à l'attaque armée dans la banlieue de Moscou. Selon le ministère de l'Intérieur russe, ces 4 auteurs présumés seraient tous des citoyens étrangers, sans préciser leur nationalité et leur identité reste encore inconnue. Le comité d'enquête, encore au stade des constatations, a indiqué avoir saisi ces armes automatiques qui auraient été utilisées par les auteurs de l'attaque. Les assaillants auraient également fait usage d'un liquide inflammable pour mettre le feu à la salle de concert où se trouvaient des spectateurs. Selon plusieurs agences de presse russes, c'est ce véhicule blanc que les assaillants auraient utilisé pour fuir le lieu de l'attaque. Sur une chaîne Telegram proche du Kremlin, ces vidéos d'arrestation ont été diffusées. Le comité d'enquête précise que ces personnes ont été arrêtées dans la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine et du Bélarus. Selon le média Medusa, ces arrestations se seraient produites à Katsoun, dans la région de Bryansk. Dans une allocution, Vladimir Poutine affirme que les suspects se dirigeaient vers l'Ukraine. Daesh, de son côté, publie une photo des assaillants à visage fouetté et revendique l'attentat.
Vladimir Poutine, qui a promis hier de punir les responsables de cette attaque sanglante, il n'a pas évoqué étonnamment la revendication de l'État islamique. En revanche, il assure que les assaillants ont été arrêtés en chemin vers l'Ukraine.
Le sous-entendu est clair pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Russie cherche à rejeter la faute sur son pays. On l'écoute.
Encore une chose, ce qui s'est passé hier à Moscou. Il est évident que Poutine et les autres salauds essaient juste de trouver quelqu'un d'autre à blâmer. Leurs méthodes sont toujours les mêmes. Nous avons déjà vu tout cela. Des bâtiments détruits, des fusillades et des explosions. Et ils cherchent toujours quelqu'un à blâmer.
Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de parole étonnante de Vladimir Poutine hier, qui ne parle pas une seule seconde de l'État islamique, mais qui en revanche parle de la fuite des assaillants vers l'Ukraine?
C'est une aubaine. Avant les attentats, avant l'attentat qui s'est produit, Vladimir Poutine avait déjà parlé de la guerre. Avant, il s'agissait en Ukraine pour lui d'une opération militaire spéciale. Et voilà que le mot « guerre » est ouvert par et prononcé par Vladimir Poutine avant même les attentats. Il est évident qu'il va s'en servir. Et qu'il va nous donner un roman, un récit, enfin plutôt un roman d'ailleurs, puisque le récit a maille à partir avec la vérité, alors que le roman reste centré sur la fiction. Il va se servir de cet événement, sans doute, pour une fois de plus, incriminer l'Ukraine et redoubler redoubler la guerre, si j'ose dire, redoubler les actions militaires.
Je ne sais pas s'il faut y voir un lien, mais je donne l'information qui vient de nous parvenir. Un missile de croisière russe a violé l'espace aérien polonais. Ça s'est passé dans la nuit, manifestement, pendant environ une quarantaine de secondes. L'espace aérien polonais a été violé par l'un des missiles de croisière lancés cette nuit par l'aviation de la Fédération de Russie. C'est ce qu'a indiqué le commandement de l'armée sur le réseau social X. On va en parler justement avec Gérard Vespierre qui nous accompagne également, géopolitologue, qui va nous apporter son éclairage ce matin, fondateur du Monde Décrypté. Gérard Vespierre, je reviens sur ces mots de Vladimir Poutine tout d'abord, qui ne mentionne pas la revendication de l'État islamique, qui pointe du doigt l'Ukraine. Est-ce que c'est une hypothèse crédible ou finalement c'est quelque chose qui cache autre chose, une volonté peut-être d'accroître la violence envers l'Ukraine?
La volonté, bonjour à vous d'abord, la volonté, elle est surtout de ne pas ouvrir devant le public et devant l'opinion russe un deuxième front, n'est-ce pas ? Il s'agit pour le président de rester concentré sur l'opération militaire spéciale devenue guerre contre l'Ukraine. Parler, à contrario, donc, de l'État islamique, c'est ouvrir le dossier des rapports de la Russie avec l'univers musulman, qui représente pratiquement 15% de la population russe. 20 millions de Russes sont de confession musulmane. Et puis, vous avez derrière cela, bien sûr, le douloureux dossier du Caucase, où des territoires donc historiquement indépendants au XIXe siècle ont été contrôlé, pris en possession par la Russie, le fameux Caucase Nord. Et en troisièmement, vous avez les relations très tendues et historiques contemporaines entre l'État islamique et la Russie. N'oublions pas que dès 2014, je dis bien 2014, l'État islamique avait dit qu'il allait essayer de détrôner le pouvoir russe dans le Caucase suite à l'action russe en Syrie. Donc le dossier de l'État islamique, des rapports avec le monde musulman est particulièrement lourd. En plus, si vous prenez les déclarations de l'État islamique qui reprochent au pouvoir russe toutes ces opérations en Afghanistan 1979-1989, plus de 150 000 Afghans musulmans tués par l'armée russe, les opérations de guerre en Tchétchénie qui ont été aussi porteuses de très nombreux morts donc tchétchènes, et puis les opérations en Syrie. Donc de façon à ne pas ouvrir ce deuxième front, on fuit, et d'ailleurs de façon pas paradoxale, le président russe a parlé de la fuite, n'est-ce pas, à des terroristes vers les frontières russes. Donc, il y a une fuite, effectivement, devant ce dossier qui ne veut pas être un deuxième front intérieur et politique.
Mais il n'a pas l'intention, selon vous, d'instrumentaliser politiquement ou militairement cet événement pour d'autres desseins?
Alors, il peut le faire dans le discours, mais les décisions sur le front ukrainiens sont des décisions militaires. Donc il appartiendra au président de les décider en fonction de ses capacités militaires, en fonction des faiblesses éventuelles du front ukrainien et peut-être d'intervenir avant qu'une aide encore plus massive intervienne de la part des alliés de l'Ukraine. Donc voyez-vous, il n'y a ici aucune place pour des phénomènes ou pour des paramètres extérieurs. Les décisions militaires russes sur le front ukrainien dépendront uniquement de paramètres militaires.
Est-ce que l'opinion publique peut en vouloir à Vladimir Poutine de ne pas avoir écouté les avertissements de l'ambassade américaine en Russie ?
Alors écoutez, oui, et là vous ouvrez peut-être un sujet encore plus vaste, n'est-ce pas ? C'est celui de la sécurité en Russie. Et elle n'est pas simplement orientée autour de ces opérations d'attentat, mais autour de la sécurité, de la protection anti-aérienne, par exemple. N'est-ce pas ? Samedi dernier, il y a eu des frappes sur une raffinerie à Samara. Samara, c'est à 1000 km de la frontière ukrainienne. C'est-à-dire que les missiles ont mis à peu près environ 2 heures de vol, de survol du territoire russe. Comment cela est-il possible quand on connaît le nombre de systèmes anti-aériens dont dispose le pays, la réputation que peut-être à mauvais escient, en tout cas, ces systèmes ont eu, les S-300, les S-400. Bon, et donc voilà, il y a un problème de sécurité intérieure globale, protection des installations militaires et industrielles et protection de la population.
Merci à vous Gérard Vespierre. On va refermer ce chapitre avec vous Guillaume Bigot. Comment vous interprétez-vous les propos de Vladimir Poutine hier qui semble pointer du doigt l'Ukraine, en tout cas en matière de complicité, en disant que les assaillants ont fui vers l'Ukraine, mais sans évoquer pour autant l'État islamique?
Alors numéro un, c'est vraiment la guerre. Donc à la guerre, la propagande règne en maître. Et la haine est telle que les belligérants russes et ukrainiens, de toute façon, font feu de tout bois. Ils se sont immédiatement saisis de cette horrible attaque.
Oui, vous avez raison de le rappeler, puisque les Ukrainiens aussi ont accusé les services secrets russes d'avoir fomenté cette
chronologiquement,
attaque.
Chronologiquement, soyons clairs, les Russes ont quand même lancé le bal. C'est Medvedev qui a commencé. Mais tout de suite, les Ukrainiens ont embrayé, etc. Donc ça montre le niveau vraiment de belligérance, d'une certaine façon. Deuxième raisonnement, Vladimir Poutine est un homme des services. Donc il est habitué, c'est une sorte de déformation professionnelle, non seulement de pouvoir exploiter ce genre d'événement, mais surtout de voir des complots partout. Troisièmement, bien sûr que c'est beaucoup plus pratique pour lui de pointer une co-responsabilité au moins ukrainienne que d'avouer que la sécurité n'est pas assurée. C'est vrai que l'affaire, même si il faut prendre vraiment beaucoup de pincettes, le fait d'avoir des informations, c'était le cas du gouvernement israélien avant le 7 octobre, les services égyptiens les avaient informés, c'était vrai du 11 septembre, il y avait eu des informations beaucoup plus honnêtes des services américains eux-mêmes d'ailleurs, vis-à-vis de Washington avant le 11 septembre, donc c'est pas pour ça qu'on arrive à prévenir un attentat. Il n'en reste pas moins que là, Vladimir Poutine est allé jusqu'à dire les Américains sont en train d'essayer de nous déstabiliser. Donc c'est vrai que pour son opinion, c'est quand même extrêmement compliqué. Et là, eh bien, je pense que ça va accentuer la mobilisation pour la guerre, puisqu'il a décrété l'état de guerre avant l'attentat d'ailleurs.
Allez, avant de passer à la suite, le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
133 personnes sont mortes à Moscou vendredi soir au cours de l'attentat revendiqué par l'État islamique. Vladimir Poutine promet de punir les responsables de cette attaque. Il assure que les assaillants ont été arrêtés en chemin vers l'Ukraine sans mentionner le groupe djihadiste. De son côté, Volodymyr Zelensky accuse son homologue russe de chercher à rejeter la faute sur l'Ukraine. Retour en France où plusieurs lycées des Hauts-de-France ont reçu des menaces terroristes vendredi et samedi via leur messagerie en ligne piratée. Lundi, 122 établissements vont exploser, est-il écrit dans ce message. Les établissements scolaires concernés resteront ouverts demain mais dans des conditions de sécurité renforcées. Et puis des centaines de monuments éteints partout dans le monde pendant 60 minutes. Ça se passe à 20h30, heure française, ce soir. Une initiative proposée par l'ONG WWF pour sensibiliser le monde au dérèglement climatique. Entre 1970 et 2018, la quantité de population de vertébrés sauvages a décliné de 69%.
Alors politiquement, cette attaque terroriste contre la Russie arrive peut-être au mauvais moment pour Emmanuel Macron et le discours un petit peu bat en guerre qu'il tient en ce moment à l'égard de Moscou. Emmanuel Macron qui est à la une du JDD ce matin. L'Europe puissance ne peut pas attendre, dit-il. Comprenez, l'Europe puissance face à la menace russe, c'était le propos de départ. Sauf que ces dernières heures, c'est un petit peu compliqué face à un pays victime de terrorisme. Quand un peuple est endeuillé par le terrorisme, dit-il, la France est toujours solidaire, c'est ce qu'il a ajouté. In extremis à ses confidences au JDD.
Le JDD qui a eu accès pendant 2 jours aux coulisses d'un sommet historique pour doter l'Europe d'une défense puissante et autonome. Jusqu'ici, nous nous en remettions aux États-Unis pour nous protéger, dit le chef de l'État. Cette fois-ci, on ne sait pas s'ils vont le faire. C'est donc à l'Europe de prendre en main sa défense.
Et c'est donc à Vincent Roy que je retourne la question. Est-ce que c'est à l'Europe maintenant de prendre en main sa défense?
Toute la question, c'est de savoir exactement quel est l'ennemi de l'Europe. Est-ce que l'ennemi de l'Europe, et c'est toute la difficulté à laquelle est confronté aujourd'hui Emmanuel Macron, est-ce que l'ennemi de l'Europe, c'est le djihadisme, c'est l'État islamique, ou est-ce que c'est la Russie. En fait, il nous a proposé un discours de va-t-en-guerre en nous disant, attention, c'est la Russie est notre adversaire, hein, on joue sur les mots, pas notre ennemi, mais notre adversaire, et puis voilà que la Russie est attaquée par l'État islamique, qui est en même temps notre ennemi et le véritable ennemi de l'Europe. Alors, Emmanuel Macron est évidemment politiquement embêté, car il est évident que c'est l'État islamique qui, au premier chef, est l'ennemi de l'Europe, et non pas la Russie. Et là, quand je dis ennemi, je ne dis pas adversaire pour ce qui est de l'État islamique.
Vincent Roy nous dit que Emmanuel Macron se trompe de combat, finalement.
C'est-à-dire qu'il y a deux obstacles à la construction d'une Europe de la défense depuis le départ. Un, le fait que y a déjà quelqu'un qui est sur le coup, ça s'appelle les États-Unis d'Amérique, et c'est eux qui assurent la défense de l'Europe depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas à l'Ouest, et pour l'ensemble du continent depuis la chute du mur de Berlin. Ils étaient du tout d'accord pour qu'il y ait une Europe puissance, hein, d'où l'expression d'une quelque sorte d'une insatisfaction d'Emmanuel Macron quand il disait l'OTAN est en mort cérébrale. C'était une sorte de wishful thinking, comme on dit en anglais. Et deuxièmement, le fait que les Européens, précisément, qui n'ont pas voulu se défendre eux-mêmes, s'ils ne veulent pas défendre leur propre pays, ils ne vont pas défendre, je dirais, le continent européen, qui est une abstraction, en fait, ou une idéologie, ou une organisation internationale. Dans le meilleur des cas, ce serait une alliance, si vous voulez. Un pays qui ne se défend pas lui-même ne se met pas dans une alliance avec d'autres pays qui ne veulent pas se défendre. C'est ça le problème de fond, en fait. Le projet européen, depuis le départ, est à l'égard de la défense de la puissance, ce que les alcooliques anonymes sont à l'alcoolisme, en quelque sorte. Donc ce sont des pays qui ont décidé de ne plus être puissants et de s'en remettre à d'autres. Donc on peut toujours attendre l'Europe de la défense, elle ne viendra évidemment jamais. Vous avez raison, il y a une espèce de recentrage, mais il ne faut pas se tromper de format. Parce que si vous faites la guerre contre la Russie, si vous êtes dans une optique que la Russie va attaquer tous les pays de l'OTAN, alors il faut un autre format d'armée. Il faut beaucoup d'artillerie, il faut par exemple des levées en masse, énormément d'hommes. Enfin, on voit bien la nature de cette guerre en Ukraine. Tandis que si vous faites la guerre contre une menace terroriste ou une infiltration extérieure ou des opérations, intervenir sur des foyers de djihad, c'est pas du tout le même format d'armée. Et donc pour terminer d'une métaphore, c'est un peu comme dans le coronavirus. Si vous voulez, à un moment on a dit toute la santé du monde, c'est le coronavirus. Ben non, en fait, il y a les maladies cardiovasculaires, il y a le cancer, il y a beaucoup d'autres menaces.
Une question que je vais vous poser, Vincent Roy. Doit-on réintroduire le service militaire obligatoire pour les jeunes? C'est la question qu'on a posée à travers un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. 65% des Français disent y être favorables, 35% sont contre. Pourquoi on pose cette question? Parce qu'évidemment, avec la guerre aux portes de l'Europe et dans un contexte de menace terroriste élevée en France, faut-il que chacun soit capable de défendre le drapeau, la nation?
Bah écoutez, moi je trouve que le service militaire est une très bonne chose dans la mesure où il permet dès la sortie de l'adolescence une sorte de mélange. On y retrouve toutes les classes sociales. On peut connaître vraiment son pays, sortir de chez soi, rencontrer l'autre. Et puis il y a cette idée quand même que on apprend ce que c'est qu'un ordre. On apprend à respecter ses supérieurs. On apprend ça. Vous savez, ça a plein de vertus, le service militaire. Moi, je l'ai fait. Je m'en souviens très bien. D'ailleurs, c'était un moment tout à fait agréable. Et je trouve que ça joue sur la cohésion de la nation. Moi, j'y souscris complètement et je trouve que les Français ont bien raison. Bon, alors, c'est un retour en arrière, évidemment, hein, puisqu'on l'avait défait. Voilà maintenant qu'on y revient. Et pourquoi pas ?
Autre sujet d'actualité, je vous en parlais en titre en France, de nouvelles menaces d'attentats ont été diffusées ce week-end sur les espaces numériques de travail de collégiens et de lycéens. 122 établissements vont exploser, voilà ce qu'on a pu lire sur certains de ces messages. Ils visaient essentiellement des collèges et des lycées des Hauts-de-France et nous sommes avec Gérard Haas. Bonjour, vous êtes avocat, expert en cybercriminalité et merci de nous apporter votre éclairage ce matin. C'est déjà la deuxième fois que l'éducation nationale est confrontée en l'espace d'une semaine à ce type de piratage et j'avais une question. Est-ce que ces espaces numériques de travail sont suffisamment protégés?
Alors c'est une très très bonne question. Merci, bonjour à tous. Effectivement, en tout cas, l'éducation nationale montre que ces plateformes ne sont pas sécurisées et c'était quand même une des obligations qu'elle doit apporter quand même à l'ensemble des élèves, des parents et des enseignants. Ces plateformes numériques, ça a été le moyen de l'intrusion, si vous voulez. Et c'est par ce biais que le pirate terroriste a pénétré le système. Il a envoyé ensuite des mails, et donc ça, dans ces mails qu'il a envoyés, donc il y avait d'abord une action de piratage informatique. Il y a eu ensuite la menace d'attentat terroriste avec des menaces d'explosifs auprès de 5 lycées. Il y a eu l'envoi de vidéos de décapitation, et puis également des menaces de mort, où on a, et un appel aussi à un soutien en montrant un petit peu comment tout cela peut se faire. Donc oui, les systèmes, les plateformes numériques mises en place par l'Éducation nationale ne répondent pas aux premiers critères de sécurité qu'ils devraient pouvoir assurer. Alors cela étant, les cyberattaques, elles sont généralisées et on connaissait déjà, si vous voulez, les actions qui étaient à motif économique pour demander des rançons auprès des entreprises ou des organismes d'État. Maintenant, on connaît aussi des actions qui sont menées à des fins de terrorisme islamiste et là-dessus, on voit un petit peu. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que derrière ça, ce n'est pas un canular?
Pour savoir si c'est un canular ou pas, il va falloir remonter le fil jusqu'aux personnes responsables de ces menaces. Et alors, j'allais vous demander comment les enquêteurs vont s'y prendre pour remonter le fil de tout ça.
Alors, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que là, c'est les services de l'État, il y a l'ANSSI, on a les services de police et de gendarmerie qui sont mis de dessus. Là, on va avoir des moyens d'investigation qui sont hors normes. Et donc, comme l'a dit le Premier ministre, les pirates ou le pirate va être traqué, il est déjà pisté. Et il sera forcément écrasé. C'est évident. Là, si vous voulez, ce phénomène, il est déjà, on sait déjà d'où ça vient. Et il y a des investigations qui sont en cours. Là, on a des grands moyens. Et je pense qu'il y a deux plaintes qui ont été données, dont une de la région Île-de-France. Les moyens qui vont être mis en place vont pouvoir assurer des réponses qui me semblent d'opportunité. Et on arrivera à les traquer.
Merci à vous, Gérard Haas. Je rappelle que vous êtes avocat. Merci d'avoir accepté de réagir ce matin sur notre antenne. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant sur CNews. On évoquera le fléau des rodéos urbains et comment les policiers municipaux tentent de lutter contre ce fléau. Vous allez voir notre reportage embarqué à Compiègne, dans le département de l'Oise. Et c'est parfois très difficile pour les agents. Vous allez le voir. À tout de suite. Peu à peu, par son intellect, par son éclat, il a su regagner ma confiance. Vincent Roy. Tout comme Bigot, mais ouf. C'était déjà acquis pour Guillaume. Tout va bien. Mais là, Vincent, vous m'avez épaté ce matin.
M'obliger à faire mes preuves à chaque émission.
Je sais, c'est un
challenge.
C'est un concours.
Un concours. Voilà.
La matinale week-end, une exigence de tout instant, grâce à Marine Sabourin, notamment, qui est à ma droite, Guillaume Bigot également. Voici les titres de votre journal pour la dernière ligne droite de cette émission. Je vous embarque ce matin avec la police municipale de Compiègne en lutte contre les rodéos urbains, un fléau qui revient avec les beaux jours évidemment. Mais vous allez voir qu'il est bien difficile d'interrompre des jeunes qui ne craignent plus l'autorité des forces de l'ordre. Le reportage dès le début de ce journal. Nous irons aussi à Nice, dans le quartier des Moulins, bien connu pour ses trafics de stupéfiants. Ce marché de la drogue enregistre un chiffre d'affaires estimé à plus de 15 000 euros par jour. Les opérations Place Net s'y sont multipliées ces derniers mois. Pour autant, la situation s'est-elle améliorée? C'est ce que nous verrons dans quelques minutes. Et puis, dernier jour de la campagne du SIDAction ce dimanche. Cette année, c'est la 30e campagne de collecte de dons. Objectif, sensibiliser les jeunes. En France, 200 000 personnes vivent avec le VIH. 5 000 apprennent leur séropositivité chaque année. Nous serons dans quelques minutes en direct avec Florence Thune, directrice générale du SIDAction. On vous emmène ce matin à Compiègne, dans l'Oise. Reportage embarqué avec la police municipale qui tente de lutter tant bien que mal contre ce fléau, celui des rodéos urbains, qui revient en force évidemment avec le printemps.
Et vous allez le voir, c'est très compliqué d'interrompre ces jeunes qui ne semblent craindre rien ni personne. Certains narguent les policiers tout en mettant en danger la vie des habitants. Le reportage est signé Fabrice Elsner avec le récit de Mathilde Ibanez.
Ouais, tous les équipages, je viens de recevoir un appel téléphonique d'une dame justement qui a failli avoir un accident à cause de deux motos qui lui ont trouvé la route.
Ce type d'appel d'urgence, c'est le quotidien de ces agents de la police municipale. Chaque jour, ils patrouillent à Compiègne pour tenter de lutter contre le fléau des rodéos urbains.
C'est vraiment des opérations qui seront programmées, qu'on met en place avec des stratégies voilà, pour pas non plus aller sur le secteur et envenimer les choses et rentrer dans le jeu des jeunes.
Rapidement repérés par les jeunes, ils se font suivre dès l'entrée dans le quartier.
Ouais, donc on a la moto bleue qui nous suit hein, au niveau de, du mât. Ouais, ils ont fait demi-tour au commerce, ça repart dans l'autre sens.
Mais une fois sortis de la voiture... Le jeu du chat et la souris est lancé entre les policiers et les jeunes.
Voilà, vous avez un peu l'exemple. Si on s'arrête et qu'on met pied à terre, bah, ils vont prendre la chute.
Impossible donc pour ces agents de travailler efficacement, sans prendre des risques.
Pour que eux n'aient pas d'accident, que nous aussi on travaille en sécurité, qu'on ne soit pas mis en danger également.
Pourtant ici, à force de négociations avec la BAC, ils arrivent à mettre pied à terre un des individus. Mais un instant après, d'autres jeunes continuent leur manège narguant les forces de l'ordre. Une présence sur place importante, mais compliquée si les actions ne sont pas coordonnées avec les autres services de police.
Police nationale, police municipale sont absolument complémentaires. À Compiègne, ça marche main dans la main. Seule la police nationale a la capacité de procéder à des contrôles d'identité à certains actes d'investigation. La police municipale, elle a l'avantage d'être disponible, de bien connaître les quartiers.
La mairie a mis en place un site internet Stop Rodéo pour permettre aux habitants de prévenir les forces de l'ordre sous couvert d'anonymat.
C'est très important ce reportage. Je pense qu'il faut se mettre un instant dans la peau d'un policier municipal ou d'un policier national qui tente de lutter contre les rodéos urbains. Là, on le voit très très concrètement. Si on met un pied, si on ouvre la porte de la voiture de police, qu'on met un pied à terre pour interpeller ces jeunes, ils s'enfuient avec leur scooter. Si on tente de les suivre avec notre véhicule, de les interpeller, de les arrêter, ça comporte d'énormes risques qui peuvent ensuite embraser toute une cité, tout un quartier. C'est terrible pour eux ce qu'ils font. On a des jeunes qui n'ont absolument pas peur de l'autorité de ces policiers. Comment faire? Comment réagir? Quand on est en plateau, on a souvent des... Voilà, on est souvent donneur de leçons, on dit « Yaka, Faucon », voilà. Mais quand on est concrètement dans leur situation, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas empirer les choses?
Non mais, attendez, il y a combien de temps que sur nos plateaux notamment, mais sur d'autres plateaux aussi, il y a combien de temps que l'on évoque ces phénomènes?
Là, il ne nous est pas reproché d'évoquer ce phénomène.
Non, mais attendez. Là, on a des policiers qui nous disent lorsqu'on met pied à terre, lorsqu'on ouvre la portière de la voiture, les jeunes s'enfuient. C'est donc, par conséquent, je note, c'est un constat d'impuissance. De quoi a-t-on peur? De durcir les textes? Je crois que les textes sont prêts, il n'y a qu'à les appliquer. Je veux dire, on a tout l'arsenal juridique pour arrêter ces gens. Mais la peur vient d'où? Puisque on a manifestement peur d'intervenir. Mais on a peur d'intervenir pourquoi? Pour protéger qui? La personne, le couple qui va traverser avec sa gamine et qui va se faire buter par une moto? C'est de ça dont on a peur? Ou de la personne qui est sur la moto, qui risque d'avoir un accident si l'on intervient, et une banlieue qui s'embrase? Nous sommes petits bras, nous sommes faibles, l'État est faible. Je veux dire, il faut être très clair, l'autorité doit revenir à l'État, force est à la loi. On doit arrêter tout cela, changer de paradigme, ne pas craindre qu'il y ait des accidents et qu'une banlieue s'enflamme. On passe notre temps à avoir peur que cela s'enflamme. Mais que cela précisément s'enflamme de manière à ce que cela cesse et que les gens qui vivent normalement dans ces banlieues soient en sécurité et non pas soumis à la loi de ces voyous qui mènent le bal.
Et vous avez rappelé quelque chose de très important, et ce sont les victimes.
Mais enfin, évidemment.
Ce sont ceux qui sont écrasés, renversés.
Ce sont les plus humbles qui vivent dans ces banlieues et qui sont menacés
et
qui ont droit à la sécurité et qui sont menacés constamment. Tout cela me met très en colère. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous sommes faibles. Il faut changer les paradigmes, changer le logiciel, comme dit quelqu'un sur cette antenne, mais il faut que tout cela cesse. Enfin, il faut penser aux gens qui vivent dans ces conditions. Il faut penser à eux, et à eux d'abord. Que la banlieue s'enflamme, eh bien qu'elle s'enflamme, et qu'encore une fois, nous soyons fermes. Je ne vois pas de raison de laisser vivre des gens honnêtes dans ces situations périlleuses.
Guillaume Bigot.
Non, mais pas mieux, ça me paraît très clair. Simplement, on voit bien que il y a deux situations. Il y a une situation parce que là, pourquoi il n'y avait pas de réaction? Pour une mauvaise raison, c'est-à-dire que décrit très bien Vincent Roy, c'est-à-dire la peur de l'émeute, le chantage à l'émeute, la peur de l'émeute, etc. Donc le message qui est envoyé, c'est comme on a peur de vous, bah allez-y, continuez, de toute façon, on va pas vous arrêter. Bon. Attention, c'est relayé aussi. Il y a des films qui sont présentés au Festival de Cannes qui font l'apologie du rodéo.
Oui, c'est de l'art, c'est de l'art.
C'est très chic, vraiment, c'est une contre-culture. Après tout, ils ont toutes sortes de raisons de faire ça. Ça exprime une colère légitime. Ils sont mis de côté. C'est le legs du colonialisme, que sais-je encore, comme sornette. Donc ça, je suis assez d'accord. Mais il y a une autre raison qui est plus prosaïque, qui est aussi le principe de proportionnalité dans notre droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en péril de mort. Parce que c'est ça dont il s'agit, en fait. Si vous percutez quelqu'un qui est en moto, potentiellement, vous pouvez le tuer. S'il ne menace pas lui-même quelqu'un. Donc, déjà, ça pose un défi. Vous voyez, cette situation qui s'est installée, enquistée, nous pose des contradictions juridiques. Je pense qu'en réalité, il y a d'autres mesures qui paraissent déconnectées, mais qui en fait le sont. La première mesure, c'est d'arrêter l'immigration, parce que tout le monde ne reste pas dans ces cités, contrairement à une espèce de vulgate en disant ça y est, c'est des ghettos refermés sur eux-mêmes. C'est pas vrai. Des gens, heureusement, en sortent. J'ai grandi dans ces cités, plein de gens ont grandi dans ces cités, ils s'en sortent. Mais c'est le tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire que dès lors que c'est, avec cette mentalité qui existait déjà, il y a 20, 30, 40 ans, dès lors que c'est vidé, vous recommencez. Donc ça, c'est un premier point. Ça a l'air de ne pas avoir de lien, mais en fait, c'est un lien très fort. Et le deuxième lien, c'est refaire nation. Et pour refaire nation, il faut qu'on ait un même drapeau, des mêmes valeurs et qu'on se défende ensemble. Quand vous mettez ces jeunes de cité, vous mettez des jeunes des beaux quartiers ensemble avec un uniforme et qu'en réalité, ils se sentent appartenir à un même peuple, les uns sont un peu tremblants et moutonniers, bah vous en faites des guerriers, les autres sont un peu agressifs, vous les calmez et vous les matez. Et voilà, vous avez à l'arrivée des citoyens, ça s'appelle des citoyens depuis Athènes. Mais on ne fait plus ça. Et donc on dit, ah bah c'est leur monde, c'est notre monde. Non, ça va très mal finir. Il ne faut pas qu'il y ait deux mondes, il faut qu'il y ait un monde à nouveau.
C'est une autre problématique qui concerne nos quartiers à présent, les opérations Place Nette qui se tiennent en ce moment, là où l'on trouve du narcotrafic partout sur le territoire, pour ainsi dire, dans à peu près toutes les villes moyennes et les grandes villes. Donc contre ces trafics de stupéfiants, on va prendre la direction du quartier des Moulins à Nice, marché de la drogue à ciel ouvert, si on peut dire, où les forces de l'ordre multiplient les actions. Mais les riverains, eux, ne voient pas toujours la différence.
Les syndicats de police estiment manquer de moyens pour pouvoir régler le problème dans la durée. Franck Trivio s'est rendu sur place. Les images sont commentées par Mathilde Ibanez.
Les opérations Place Nette s'intensifient depuis plusieurs mois ici, dans le quartier des Moulins à Nice, où le trafic de drogue est le cauchemar des riverains.
Tous les soirs, ce square est squatté et on les voit de loin. Hein. Tout le trafic se met en place ici. Une terreur qui se met en place gentiment. Et là, on a un peu d'État qui nous dit « Attention, on est là, mais bon, on n'a plus de pouvoir, on n'a plus de vie, on n'a plus rien. »
Pour les forces de police, un seul objectif, nuire le plus possible à la vie des trafiquants.
Ce qu'il faut, c'est pilonner de chaque instant par ces opérations Place Nette. Elles doivent donc s'inscrire dans la durée pour être efficaces. Ça, c'est capital. L'idée, c'est de se dire de créer la crise économique.
Mais pour arriver à tenir sur la durée, les forces de l'ordre réclament une centaine d'effectifs supplémentaires, aussi bien sur le terrain que dans les bureaux pour mener à bien les enquêtes.
Nos collègues sont absolument, je parle des enquêteurs, au four et au moulin. Et on a besoin à Nice, urgemment, d'OPJ et d'enquêteurs sur le terrain pour que ces trafics soient aussi démantelés.
Des opérations Place Nette qui ont déjà fait leurs preuves.
On a procédé à 14 interpellations et une dizaine de kilos de cocaïne ont été saisis, des armes de poing. Voilà, on a un bilan d'ailleurs assez éloquent sur l'année 2023 puisqu'on a 100 kilos de cocaïne, une centaine d'armes également qui ont été saisies, 3 tonnes de résine.
Il s'agit d'augmenter le nombre d'opérations pour ne pas laisser d'espace aux dealers.
Bon, ce que les syndicats nous disent, c'est que bon, certes, les opérations Place Nette sur le moment font peut-être avancer les choses légèrement, mais rien de mieux que d'avoir davantage de moyens sur le long terme, des moyens d'enquête notamment pour pouvoir régler ces problèmes et démanteler les filières.
Oui, et là, de sembler comme ça, non pas esquiver le problème, mais essayer de faire des grandes généralités ou d'avoir une approche très théorique ou très verbeuse des problèmes. Mais en fait, n'oublions pas que les États-Unis, première puissance du monde, ont mis toutes leurs forces dans la bataille. Ils ont mis des hélicoptères, ils ont mis du napalm, ils ont envoyé des forces spéciales, ils ont envoyé les gens pendant 50, 60 ans, 150 ans en prison. On en est où dans le trafic de drogue aux États-Unis? On peut savoir? Ah, c'est pire qu'avant, d'accord. Donc voyez bien que le tout répressif ne fonctionne pas. À un moment, il faut quand même s'attaquer aux causes, aux origines, aux racines. Pourquoi les gens prennent des trafics de stupéfiants? Pourquoi au sommet de la société, des gens pressurés qui sont dans les marchés financiers, etc., consomment de la cocaïne? Pourquoi en bas de l'échelle sociale aux États-Unis, des gens prennent des opioïdes, etc.? Pourquoi? Il y a quand même un malaise dans cette société. Donc, soit on s'adresse à ce malaise, on traite la cause, ça va traiter les effets.
On parle
c'est
du consommateur,
souvent...
en fait.
Bah,
on parle
oui,
du consommateur,
mais c'est ça le sujet.
Et on essaie de comprendre quelles sont les causes de la consommation.
Tant que vous avez un business et tant que c'est ultra juteux et que vous avez des consommateurs, vous aurez du trafic.
C'est votre avis, Vincent Roy ?
Bah, place nette, ça veut dire rustine. Hein. Il vaudrait mieux dire en place pour un temps long. Premier point. Deuxième point, évidemment, Guillaume a complètement raison. Il faut s'intéresser aux causes profondes. Pour ce qui est du shit, par exemple, on sait qu'il vient du Maroc. Que fait-on ? Rien.
Une ouverture sur l'actualité politique de la semaine à présent. Emmanuel Macron en Guyane à partir de demain pour une visite de 2 jours. Le chef de l'État est attendu de pied ferme dans un contexte sur place qui est très tendu.
Le département a connu une année 2023 record en termes de criminalité avec 59 homicides et 250 tentatives. Alors quel est le programme du chef de l'État? Les détails de Florian Tardif qui est sur place pour CNews.
Oui, visite attendue, très attendue du chef de l'État, puisque le territoire guyanais fait face à de multiples problèmes entre criminalité, chômage et épidémie. Au cours de ses 48 heures sur place, Emmanuel Macron aura l'occasion d'aborder une partie de ces sujets, une partie seulement, et c'est critiqué d'ailleurs par la population sur place. Au programme de sa visite, 3 dossiers, principalement le dossier sécuritaire. Il sera question de lutte contre l'orpaillage illégal, 10 fois plus important que l'extraction légale de l'or sur place. Le dossier institutionnel, il sera question de l'évolution statutaire de l'île, notamment lors d'un échange que le président de la République aura avec des élus locaux. Et troisième et dernier sujet qui sera abordé par le chef de l'État, le dossier spatial. Il se rendra à Kourou pour visiter le pas de tir de la fusée Ariane 6. Une visite, vous l'avez compris, au pas de charge qui ne permettra pas forcément au président de la République de resserrer les liens avec une population défiante à son égard, puisque 60% de la population ici a voté pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle de 2022 au second tour.
Dernier jour aujourd'hui de la campagne du CIDAction et CNews se mobilise. On va en parler du CIDAction. Il a 30 ans cette année et nous sommes en direct avec Florence Thune. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale du CIDAction. Est-ce qu'on peut rappeler avec vous, si vous le voulez bien, brièvement les chiffres du VIH en France? Combien de personnes sont infectées aujourd'hui chaque année?
Alors aujourd'hui, les derniers chiffres montrent qu'il y a environ 5000 personnes qui découvrent leur séropositivité chaque année. Et sur ces 5000 personnes, on a 14% de personnes de moins de 25 ans et 22% de personnes de plus de 50 ans. Donc vous voyez que ça touche toutes les générations et c'est vraiment important aujourd'hui, en 2024, de se remobiliser pour accentuer les campagnes de prévention et pour faire en sorte d'aller un jour vers une... Voilà, le chiffre zéro, vers zéro infection, c'est l'un des objectifs de l'ONU-SIDA pour 2030.
Est-ce que c'est un virus que l'on découvre de plus en plus tôt? C'est-à-dire, est-ce que les gens font plus de dépistage et on arrive à le savoir en amont ou pas?
Malheureusement, il y a encore une part trop importante, hein, près de 30% de personnes qui découvrent leur séropositivité au moment où elles sont déjà en stade sida. Ça veut dire que ce sont des personnes qui se sont infectées il y a déjà plusieurs années, qui ont peut-être contaminé d'autres personnes sans le savoir et sans le pouvoir, et surtout qui ont vu aussi leur santé se dégrader. Or aujourd'hui, on sait, et vous venez de le dire, hein, que la mise sous traitement précoce, elle est très importante, notamment pour l'espérance de vie, et on espérait que justement encourager le dépistage pour faire en sorte que les personnes puissent découvrir aussi tôt que possible leur séropositivité, parce que quand c'est le cas, quand on est mis sous traitement, grâce à ces traitements, on reste en bonne santé.
Alors, encourager le dépistage, encourager au don peut-être les Français aujourd'hui, le don au CIDAction. À quoi servent les dons au CIDAction? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir financer par exemple?
Alors, on a 2 piliers, hein, qui sont à la fois de financer la recherche scientifique. Et pour vous donner un exemple, on a des pistes de recherche extrêmement intéressantes vers une vie sans traitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes prennent des traitements au quotidien et on voudrait vraiment aller vers un moment où les gens prendraient juste un seul traitement et seraient débarrassés de ces traitements pour le restant de leur jour. Et puis à côté, on finance des associations qui, sur le terrain, font de l'accès à la prévention, au dépistage et qui accompagnent des personnes vivant avec le VIH qui sont souvent en situation de grand isolement ou de grande précarité.
Je vais vous poser une question évidemment très naïve, mais c'est peut-être celle que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est de la recherche en termes de vaccins? Est-ce qu'on peut miser un jour ou dans les prochaines années, les prochaines décennies, je ne sais pas, sur un vaccin?
Alors, on aimerait bien, évidemment, on participe aussi à cette recherche. On voit année après année à quel point le VIH est un virus extrêmement complexe. On a des essais vaccinaux en cours. Il y a eu des échecs, mais comme le rappelle Françoise Barré-Sinoussi, notre présidente, on apprend à chaque fois de ces échecs. Et on espère un jour pouvoir offrir un vaccin, notamment pour les jeunes générations.
Bon, en tout cas, c'est important de donner au site d'action, de rappeler qu'évidemment, on n'a pas encore la solution pour le VIH et qu'il faut être extrêmement prudent, que chacun doit se protéger, se faire dépister, se soigner s'il en est besoin. Plus de 3 millions d'euros, je crois, ont été récoltés pour le moment pour cette campagne du site d'action. Et il est toujours temps de soutenir le site d'action. Vous pouvez tout au long de la journée faire un don au 110, encore une fois. C'est également possible sur le site sidaction.org ou encore par SMS en envoyant don au 92 110. Je vous remercie infiniment, Florence Thune. Je le rappelle, vous êtes directrice générale du site d'action. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On va vous parler à présent des rameaux, le dimanche des rameaux qui marque aujourd'hui le début de la semaine sainte pour les catholiques. Singularité corse, toujours très populaire parmi les fidèles, les croûtes en palme, on en parlait tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de vous passer le sujet avec Marine.
Oui, elles sont une illustration de passages évangéliques bénis avant la messe. Les croûtes sont ensuite placées dans les maisons en guise de porte-bonheur, une tradition qui demande de la préparation, comme nous le montre Christina Luzzi, notre correspondante en Corse. Regardez.
Depuis plusieurs jours, aux quatre coins de la Corse, les mains s'activent pour confectionner les rameaux. Comme ici, à Porrette-aux-Brandes, dans le Cap-Corse, où la confrérie Santa Croce perpétue ce savoir-faire ancestral de génération en génération.
Et on a cette tradition-là, ce savoir-faire-là qu'on a à cœur de maintenir et de transmettre. Ici, il y a des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés.
La confection de croûtes et d'autres ornements tressés pour les croix de procession de la Semaine Sainte n'est pas juste un atelier pratique. Les confrères de Porrette-aux-Brandes sont également là pour enseigner aux jeunes générations du village la signification des rameaux.
Il est important quand même de leur expliquer pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça symbolise. Voilà, donc le palmier, ben c'est la relation entre l'homme et Dieu dans la symbolique. Donc, si on perd ça, effectivement, alors ça, on perd tout le sens et ça devient folklore.
Ce dimanche, les croûtes seront bénites lors de la messe des rameaux et deviendront ensuite, pour le reste de l'année, des porte-bonheur que les Corses accrochent dans leur maison ou dans leur voiture.
Et on termine donc avec un mot de sport avec Marine Sabourin.
Que vous soyez le roi du design ou la reine des animaux, retrouvez votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
Ce programme vous est proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Et on fait le bilan du match France-Allemagne hier soir.
Les Bleus ont perdu 2-0 en match amical sur la pelouse de Lyon. Score peu rassurant à 3 mois du début de l'Euro. Ouverture du score éclair de l'Allemagne avec Florian Wirtz. Dès la première minute de jeu, le joueur marque un but qui s'inscrit dans l'histoire pour sa rapidité dans le match. Les Bleus, de leur côté, joueront mardi un deuxième match amical contre le Chili à Marseille.
Ce programme vous a été proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Que vous soyez la reine de la déco ou le roi du zen, c'était votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
Et ben voilà qui nous amène à la fin de cette émission. Guillaume Bigot, est-ce que vous avez passé un bon moment ?
Très bon moment, toujours en votre compagnie.
Marine Sabourin, ça va aussi ?
Excellent.
Vous me retrouvez le week-end prochain ?
Exactement.
Guillaume Bigot aussi ?
Oui, samedi, en tout cas, samedi prochain, c'est sûr.
Vincent Roy ?
Oui.
Malgré l'emplacement sur le plateau qui n'était pas votre préféré.
Emplacement décidé par la fée de l'information.
Marine Sabourin qui vous a pris votre place. Oui, j'ai pas voulu le dire au début, mais bon, vous l'avez
pas. Merci Vincent.
J'espère que dimanche prochain, elle me laissera retrouver ma place habituelle.
C'est désir.
On verra
ça,
c'est à négocier. On vous souhaite un très bon dimanche à tous. Vous retrouvez Elliot Deval et l'heure des pros dans un petit instant. Et puis demain, pour la matinale, c'est Romain Desarbres.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.